bonsoir tout le monde et bienvenue au 18e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Minéraux Rares Quest Limité, qui est une société canadienne qui vise à devenir un producteur intégré d'oxyde de métaux de terres rares et d'être un des acteurs importants dans la chaîne mondiale d'approvisionnement de métaux de terres rares. Bon, j'espère que ça n'a rien à voir avec nous parce que j'ai failli m'endormir au milieu de cette phrase-là tellement ça a l'air plate comme compagnie.
Mais on en apprend tous les jours.
Hey, bonsoir les gars. Ben, bonsoir tout le monde. Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Je m'étais endormi dans tes terres. Salut.
Désolé. Et de Jean-François Lapas.
Salut, salut.
Comment ça va les gars?
Ça va enneigé.
Bon, hein, écoute. Allez, on est rendu à parler de la météo, c'est donc bien intéressant de faire des podcasts.
Ah, je sais bien, qu'est-ce que tu veux?
Je suis content que vous soyez tous à l'écoute.
Okay. Épisode 18, hein, on a fait le tour.
Voilà. Alors, ce sera tout. Fait, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Commence donc, Dan.
Hey, cette semaine, j'ai finalement flanché. J'ai fini par m'acheter une Wii U.
Ah, c'est fait, là.
Ouais, c'est fait.
Vous le savez pas, mais ils nous en parlent tout le temps. Puis on est comme, non, mais achète-la, on s'en crisse un moment donné.
Fait que c'est fait. Donc, j'assume mon petit côté fanboy de Nintendo. J'avoue que cette semaine, ben, de mon côté, ça a pas mal été juste de la Wii U, justement. T'achètes une console, c'est pas comme bon, ben, moi, aller jouer à d'autres choses.
Fait qu'à quoi t'as joué?
J'ai joué à Mario Kart 8 qui venait avec le bundle. Fait comme quelques courses. C'est comme. Ça reste tout le temps un bon jeu, Mario Kart, là. C'est tout le temps bien agréable. Puis avec les graphiques de la Wii U, on dira ce qu'on voudra, sont crissement solides, là. Mm-hmm. Puis Mario Kart 8 là-dessus, là, c'est de toute beauté. Je pensais au début là, que ben, ça venait aussi avec le 2 packs de DLC.
Oh.
Moi qui est comme en général pas très fan de DLC, puis ça à boîte, ça fait juste hein, 2 packs de DLC.
Là, fait que t'avais la Mercedes.
La Mercedes. Vraiment. Oui, mais,
ouais, voilà.
Mais sur la boîte, tu vois juste comme bon des bonhommes et des cartes, c'est comme ok. Là, ils ont comme crissé des packs de bonhommes et de cartes de plus. Mais non, il y a des bonhommes, il y a des cartes, là, il y a les chars de Mercedes qui sont très drôles. Mais il y a aussi bon, les personnages d'Animal Crossing, des personnages, ben il y a Link qui est là aussi.
Yes, avec sa moto cheval.
Mais oui, ça, là, il est quand même très drôle. Mais ça vient aussi avec 2 nouvelles cops. Donc, 8 nouvelles pistes, dont 4 dans chaque cas, là, finalement. Donc, mm-hmm. Au total, là, avec les 2 DLC, 4 nouvelles cops. Puis dans chaque cas, il y a 2 nouvelles pistes, 2 anciennes, là, un peu comme ils font tout le mm-hmm. temps. Donc, c'est le fun. C'est vraiment des pistes complètement nouvelles. Puis il y a une belle thématique là, autour d'une piste d'Animal Crossing où tu prends vraiment dans le village là, d'Animal Crossing. Puis
que tout le monde te demande d'aller leur échanger des meubles contre des papiers peints pendant que tu courses.
Ce qui est le fun, c'est que tu as un cart, tu peux le rentrer dedans puis régler le problème.
Arrête de payer ta dette à Tom No quand il faisait une dérive d'en face.
Non, il t'attend sur le bord de la piste avec son papier de reconnaissance de dette. Hein.
Mais au dernier épisode, on parlait de jeux là, qu'on rachète tout le temps. Puis c'est la même recette, puis qu'on est quand même tout le temps, c'est nos plaisirs coupables. C'est un bel exemple, je pense.
Oui, alors, oui.
Mario Kart, tu sais.
Oui.
Puis je m'en dis, Animal Crossing, ils n'ont pas sorti tant que ça.
Oui, mais je te dirais que c'est pire Animal Crossing que Mario Kart, en fait, là, dans le plaisir coupable que je rachète tout le temps, parce qu'il n'y a pas grand-chose de différent à chaque fois. Là. Mais Mario Kart, oui. Puis la piste avec la thématique de Legend of Zelda était cœurante, là, est belle, c'est juste toute beauté. Puis c'est cool, ben, dans Animal Crossing aussi, mais ça paraît moins. Ils ont changé les coins parce que tu ramasses des coins là, sur la piste mm-hmm. pour des roupies. Puis les plantes carnivores qu'il y a en bord de piste qui peuvent te manger, ils ont changé pour les genres de grosses plantes carnivores qu'il y a dans Ocarina of Time, là, mm-hmm. celles que tu slashes et tu fais des bâtons. Là. Fait que tu sais, il y a comme des beaux petits clins d'œil comme ça au jeu. C'est des belles pistes. Puis tu sais, je pense que je les aurais achetés, là, avoir su ça, là, puis pas les avoir de toute façon. J'aurais acheté, je pense, on 10 pièces chaque sur Store ou les 2 pour 15. Là.
Okay.
Fait que pour le nombre de pistes de plus que ça amène, ça vaut la peine.
Cool.
Sinon, Super Mario 3D Land, que j'ai aussi acheté, là, vu qu'il est dans les Player's Choice.
Les Nintendo Selects.
Ouais. Donc, un bon petit jeu pour une 30aine de piastres. C'est Mario, là, ils n'ont rien réinventé, mais c'est quand même tout le temps le fun à jouer. Tu peux jouer jusqu'à 4 aussi, qui jouent en même temps sur la même map, puis c'est la version 3D, là, fait que c'est pas juste en 2D.
Ouais,
ça joue bien. Là.
Ouais. Pas juste les new. Là.
Non, c'est ça. Ouais. Fait que bon petit jeu, là, on avance tranquillement parce qu'on a décidé qu'on jouait à ça en couple. Donc on s'amuse avec Mario. Pogné aussi le NES Remix Pack.
Yes.
Dans la même veine que Retro Game Challenge.
C'était tout un challenge.
Imagine, oui, c'est ça. Donc par la semaine passée avec des petites missions là, en lien avec
le jeu. Je veux pas qu'on parle là-dessus pendant des heures, mais as-tu fait as-tu joué un petit peu au challenge avec Sidebike?
Pas encore. J'ai fait dans l'ordre, puis je suis dans les Donkey Kong et Donkey Kong Jr.
À l'âge de 30 ans, j'ai appris à jouer avec Sidebike comme du monde à cause de NES Remix.
Ah.
Il y a vraiment une depth à ce jeu-là que je savais pas. Là.
Ah ouais?
Oui, mais genre, si tu peux taper les autres motos, puis ils tombent à terre, mais c'est vraiment selon la position de tes roues par rapport à l'autre. Puis quand tu atterris, tu sais, on fait comme, bon, quand tu sautes dans les airs, selon l'angle que tu atterris, faut que tu atterris les roues parfaitement à plat pour pas perdre de vitesse. Mais dans les queues de premier challenge avec cette bike, t'expliques comme toute cette dynamique-là, genre de. Ok, là, tu tapes avec ta roue en avant, ça roule en arrière, tu le fais tomber. Puis c'est comme, tu sais, les challenges sont juste setupés pour un mini tutoriel pour que tu puisses clencher les autres challenges qui sont plus difficiles. Fait que j'ai fucking appris à jouer à Excitebike.
Mais dans Mario Kart, il y a une piste d'Excitebike, là, qui est toute beauté. Là. C'est vraiment le premier tableau, là, c'est écœurant, la musique, puis les trous de boîte sont en même place. Là. C'est vraiment hot. Puis j'ai aussi joué un peu à Legend of Zelda, NES, qui est un jeu auquel j'ai pas vraiment beaucoup joué, parce que calisse que c'est dur, ce jeu-là, dans le sens, pas tant au niveau du gameplay, mais en tout cas pas au début, mais si tu connais pas le jeu, tu sais pas où aller, c'est...
Non, c'est obscur. C'est dur.
L'original.
Ouais, ouais, l'original NES que j'ai joué, je l'ai acheté sur le Virtual Console. En fait, je l'ai réacheté parce que Nintendo aime bien ça. Là.
T'as revendu le même jeu, ouais. Ça Wii U puis ça Wii.
C'est ça, moi je le laisse à Wii, fait que tu peux le racheter avec un discount, là, il te revient à une pièce, mais ça vaut la peine parce que sinon tu peux pas jouer sur le gamepad direct là, de la Wii U. Mais j'ai décidé, en l'ayant sur le gamepad, de rejouer. Puis bon petit jeu, là, je me suis aidé d'un walkthrough qui m'a fait trouver. Ouais, petit jeu qu'on connaît pas.
C'est ça, je vais vous parler de Legend of Zelda au NES.
Mais bref, j'ai bien avancé, je suis rendu au Death Mountain, puis c'est tough là. Les monstres sont crissement tough.
Ouais, sont très imprévisibles, les ennemis dans le premier.
Soit qu'ils sont
Zelda,
épais, bien faciles ou crissement pas tuables. Fait que ça a été pas mal ça, mon gaming cette semaine. Pas mal de la Wii U. Mathieu?
Moi, j'ai joué. En fait, je pensais cette semaine vous parler d'un jeu que j'ai commencé à jouer sur PC qui s'appelle Momodora Reverie Under the Moonlight, si je me trompe pas. Qui sonne comme un titre de jeu de Castlevania. Là. C'est-à-dire, tu prends un mot quelconque qui a de l'air songeur, puis une série d'adjectifs, puis voilà, tu as un titre de Castlevania.
Qui a rapport avec la nuit, la lune ou le.
Exactement. puis finalement, il y a d'autres choses qui sont arrivées comme release.
Konami t'a engagé pour.
C'est ça. Mais non, c'est un bon petit platformer indie que je vais sûrement revenir plus tard. Mais que c'est pas mal ça que j'ai mis mon temps cette semaine, parce que justement, je pensais vous en parler, mais j'ai eu beaucoup de plaisir sur ce jeu-là, à jouer à ce jeu-là cette semaine. Puis évidemment, encore une fois, la semaine a été marquée par la suite des nouvelles sur la réalité virtuelle, vu que c'était la sortie officielle, comme on dit au dernier podcast, des deux plateformes, et donc cette semaine de SteamVR et la HTC Vive. Donc on a eu un petit peu tout le mouvement autour de ça, les premières impressions de ceux qui ont reçu des jeux. Pis...
Les premières critiques aussi qui ont sorti.
Sure, exact. Fait que c'était impressionnant. La hype continue à se bâtir. Ben, on doit pouvoir tester ça.
Moi, j'ai comme compris un peu plus cette semaine... Le VR avec la vidéo de promo de la Vive.
En fait, la vidéo de promo officiellement de Valve.
Puis on le postera là, sur Facebook dans le courant des deux semaines. Là, où est-ce qu'on voit, dans le fond, ils font jouer des gens à de la VR, mais ils l'ont mis sur un green screen. Fait qu'on voit les gens dans l'environnement de VR. Là, puis on comprend le genre l'interaction que le monde peut avoir en voyant les gens à troisième personne. Là, c'est...
Ouais, je pense que c'est la première fois qu'on a une façon aussi convaincante de représenter c'est quoi le feeling recherché. Quand on parle de réalité virtuelle aujourd'hui, t'sais. Parce que c'est mauditement abstrait comme concept. Ouais.
Avec vous, on a déjà parlé là, cette semaine, avec le gros souci de mettre de l'avant le petit côté social de ces expériences-là,
ouais,
que tu n'es pas isolé nécessairement, que tu peux faire participer d'autres personnes dans ton expérience à travers un écran, d'autres
entendements de télé. Je pense que c'est ça qu'ils ont de loin le mieux réussi à faire par rapport à toutes les autres présentations. On avait eu, une couple de mois, il y avait eu Sony qui avait fait une espèce de trailer pour PlayStation VR qui était très très cool, mais qui était vraiment focus. C'est juste sur une personne dans la réalité virtuelle. Puis c'est ça, c'était très isolé comme présentation. Tandis que là, on a vraiment un côté party social. Même s'il y a juste une personne qui est dans l'expérience, il y a vraiment comme un côté de découverte puis de juste voir comme... De réagir à quelqu'un qui est comme immersé dans ce genre d'expérience-là. Qui est divertissant en soi, puis c'est ça qui nous présentait beaucoup. C'était cool.
Il y a aussi le PlayStation VR qui est un petit peu plus... Je pense un peu sous silence derrière les grosses annonces de HTC puis de Oculus, mais PlayStation VR qui annonce qu'il y a l'air un bon line-up, puis il y a quand même des bonnes critiques là, des gens qui l'ont entre les mains puis qui le testent un peu ces temps-ci. Fait que...
C'est sûr, là, c'est pas une prévision très très difficile à faire, là, mais quand PlayStation VR va sortir, c'est sûr ça va être la plus grosse plateforme de réalité virtuelle parce qu'elle est de loin, loin la plus accessible. Puis elle offre un produit complet, standardisé. Fait qu'il n'y a aucun doute que la plateforme de réalité virtuelle la plus vendue en 2016, ça va être PlayStation VR, même si ça sort juste en octobre. Puis toi, Jeff, justement, pendant que tu parles.
Ben écoute, comme Danny, toi, t'es un amateur des rechutes, mais c'est mon tour de faire une rechute. Écoute,
Destiny?
J'ai essayé, écoute, puis définitivement, je suis pas fait pour les mathématiques, c'est jamais été mon fort, je pense que c'est pas ma destinée, en fait. Fait que, oui, mais j'ai
Merci, Dan.
Merci.
OK, remets-les dans le garde-robe, eux autres sont fatigués.
Fait que je fais tous les vendredis soir. Puis... non, mais ouais, effectivement. Fait que j'ai reparti Destiny, je joue un petit peu. Me remettre dans ce bateau-là. Ça fait du bien après la réalité de New York, puis le réalisme, puis le détail.
Puis
divisions. Puis les divisions, les mathématiques, puis les devoirs. Mais non, mais de changer.
Il est usé, ce gag-là. Il était déjà pas riche, là.
C'est
mais...
pour ça qu'il est drôle.
Ben, ça, ça ah fait... oui, c'est drôle.
C'est la dernière fois.
C'est clair, c'est pas vrai.
Mais ça fait du bien de changer un petit peu de rôle et de retourner avec un personnage qui peut sauter comme 100 pieds dans les airs, lancer des boules de feu, puis tuer des monstres qui mesurent des gratte-ciels de haut. C'est différent. C'est rafraîchissant.
Que de tirer juste sur des gratte-ciels.
Oui, mais non. Voilà. Fait que, on va voir pour combien de temps ça dure, mais pour l'instant, c'est ma petite rechute. Ça a été aussi cette semaine, comme cette semaine, juste avant l'enregistrement du podcast, en fait, là, la mise en ligne du teaser trailer, le trailer du trailer de Star Wars Rogue One, fait que le prochain film qui, cette année, au mois de décembre, en si je ne m'abuse, ouais. qui est excellent. Allez voir, ben allez être...
Émerveillé
avec nous. On vous invite.
Est-ce que Disney lâche plus, hein? Genre, ça fait deux semaines qu'ils nous ont sorti, la saison 2 de Daredevil. Après ça, ils nous sortent le Blu-ray de Star Wars First Awakens. Dans la même semaine, ils nous sortent Rogue One.
Ça fait fort. Mais moi, ce qui m'a marqué de tout ça, ça a piqué ma curiosité, en fait. Okay. Puis je suis parti en quête de la musique de trailer de piano. Parce que... Je vais écouter un quelques secondes du trailer de Rogue One. Fait que, je l'ai arrêté là parce qu'après ça, il y a des gens qui parlent puis ça s'emporte un petit peu. Mais
on aime pas ça, les gens qui s'emportent.
Non, tout le monde qui parle.
Il y a ça, un thème qui s'installe dans les trailers modernes où on reprend le thème d'une série connue quand on fait une suite, puis un petit piano dramatique, romantique, avec une petite mélodie comme ça.
Le fameux nostalgia piano.
Effectivement, puis je me suis dit, il me semble que j'ai entendu ça récemment. Fait que là, j'ai fouillé un petit peu.
Je le sais.
J'ai trouvé ça. Donc, c'était le trailer de Ghostbusters qui a été mis en ligne il y a quelques semaines, qui reprenait aussi ce thème-là.
C'est subtil quand même.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un droit d'auteur, c'est gros crise de coup de baisse au ralenti. Là. Mais
avoir oui, c'est Inception.
Mais je me suis pas arrêté là, parce que quand j'ai trouvé le trailer de Ghostbusters, j'ai dit non, c'est pas ça que je cherchais. C'est pas ça que j'avais dans la tête. J'ai trouvé, mais je n'ai vu un autre récemment, puis j'ai trouvé ça. Evacuate the island. She's a highly intelligent animal. She will kill anything that moves. Donc, même les dinosaures ont le droit au traitement du piano nostalgique.
Moi, je pense que dans le fond, le piano nostalgique, c'est juste parce que tu prends quelqu'un qui ne sait pas jouer du piano, puis tu lui dis quelle note peser, là, moi, je serais capable de jouer. Je ne suis pas un pianiste pantoute, mais à cette vitesse-là, je serais capable de jouer.
Dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que les gars qui font des trailers, ils ont un doigt. Et ça joue du piano.
Mais j'espère que non. Parce que moi, j'ai vu là-dedans, enfin, la consécration de mes années d'études en piano. Toutes ces années où les gens ont ri de moi parce que j'étais pas un guitariste comme tout le monde, puis j'étais pas cool.
Il disait qu'on avait pas ça le monde qui s'emportait. Là. Ouais, je commence à pas l'aimer. Là.
Mais moi, je vois là-dedans, enfin, ma chance de m'exprimer puis d'exprimer mon art.
Alors, on vous annonce aujourd'hui la sortie de l'album de cover de tune de film de piano de Jeff.
Non, mais à tous les réalisateurs hollywoodiens qui nous écoutent, je lance mon aide, en fait. Je suis disponible si vous avez besoin de moi pour enregistrer la musique de piano. Ça me fait plaisir.
C'est que j'ai hâte à la version piano de Back et Platine. Je me peux plus.
Fait que c'est out there. Fait que si jamais quelqu'un est intéressé, divanquest à commercial@gmail.com, ça me fait plaisir d'enregistrer les trailers piano de vos films.
Merci. Alors, dans l'actualité, Plus tôt cette semaine, Mark Zuckerberg, tu sais, le dude de Facebook. Là,
celui qui donnait tous ses milliards, là, si tu chérais son poste, c'est ça?
C'est celle-là. a pris la parole pour exprimer ce qu'il envisageait pour l'avenir de la fonction vidéo en direct de Facebook. Les possibilités que ça offrait pour le journalisme citoyen de terrain d'offrir la vérité à des millions de personnes instantanément, sans filtre ni censure. Bref, une nouvelle ère de journalisme guérilla. Alors, ce 8 avril après-midi, BuzzFeed a pris l'Internet d'assaut en utilisant la fonction de vidéo en direct de Facebook pour nous montrer du contenu excessivement pertinent. Ben, pour BuzzFeed, là, je veux dire. Ils ont décidé de mettre des élastiques autour d'un melon d'eau jusqu'à temps que ça pète. Et oui, rien de remarquable ici. Ne serait-ce que 800 000 personnes se sont présentées en direct pour assister à ce moment historique. C'est dirigé à Internet.
Oui.
Je suis profondément touché de voir que le vœu de M. Zuckerberg se soit réalisé si rapidement. Et je me sens confiant de savoir que la paix dans le monde ne sera plus jamais menacée tant que les citoyens veillent à partager les révolutions culturelles avec le monde et à exterminer ces terribles melons d'eau qui menacent nos libertés. Un des grands mystères de l'histoire, c'est la route exacte qu'a pris Hannibal pour traverser les Alpes pour attaquer Rome en 2018 BCE. Écoutez, ça m'obsède tellement que j'en dors pas le soir. Je sais que c'est pareil pour vous autres.
Oui, ben, entre autres.
ben, soit ça là, qui m'empêche de dormir, ou bien le sort réservé à la fille qui a finalement décidé de se tuer dans Unité 9. Là. Spoilers, je sais pas. Je sais pas, je l'écoute pas. Mais anyway, les historiens ont jamais réussi à s'entendre sur le trajet qu'aurait pris le sympathique mégalomane velu. Mais une étude publiée dans le journal d'archéométrie, on devine ce que ça fait, pourrait venir répondre pour une fois pour toutes à la question. L'étude des couches sédimentaires produites par le mouvement constant des animaux et des humains, aka l'étude de la vieille marde desséchée, permettrait de confirmer le trajet emprunté. Il se trouve que des preuves de présence de la bactérie Clostridia, qui constitue plus de 70% des microbes contenus dans la marde de cheval, a été trouvée à des endroits clés à travers le col de la Traversette en Italie. Rien de cela ne constitue une preuve irréfutable pour l'instant, mais la quantité pourrait être un facteur. Hannibal aurait traversé avec 30 000 hommes, 15 000 chevaux et 37 éléphants. Un calcul sommaire me permet de déterminer que ça en fait de la marde, ça. Alors, je vous tiens au courant des développements sur cette histoire, riche en fibres.
Mais, mais il y a quelqu'un qui est payé pour ça?
À de l'archéométrie?
Ouais, il y a quelqu'un qui se promène des montagnes à quatre pattes puis qui cherche la marde.
La marde fossilisée.
Non, c'est tout autre niveau de marde. Alors, selon les statistiques les plus récentes de Facebook, encore Facebook, il semblerait que les usagers du service de partage de photos de chats et d'articles de santé aux sources douteuses soient effectivement plus près de la description se voulant humoristique que je viens d'en faire que de son but original. C'est une phrase, ça, hein? Selon Facebook, le service attire beaucoup plus de réactions et d'utilisateurs quand ces derniers partagent du contenu original et surtout sur leur vie personnelle que lorsqu'ils partagent simplement des liens vers des sources externes. Bref, ça a l'air que le monde sont plus intéressés par des nouvelles à propos de leurs amis qu'un millième hostie de partage d'un article contre l'immigration qui rend tout le monde mal à l'aise par son ignorance grossière ou par un article de santé-nutrition.org sur les bienfaits du fucking jus de cornichon. Alors, je vous en prie, Et ce que ça fait pour le trafic Facebook, honnêtement, je m'entorche. Mais je veux lire des articles avec des opinions. Si je veux lire des articles, pardon, avec des opinions qui me rendent violent, je peux ouvrir moi-même la page du Journal de Montréal. Donc, sentez-vous libre de ne pas peser sur le piton share à chaque fois que vous trouvez que Richard Martineau a donc bien raison. Fait que prenez une grosse gorgée de jus de cornichon en place. J'ai lu à quelque part que c'était bon pour vous autres. OK? Good. Alors, cette semaine, en l'honneur du 400e anniversaire de la mort de Shakespeare, pourtant, il me semble que c'était comme hier, la compagnie SwiftKey, créateur de claviers logiciels pour appareils mobiles, offre un clavier édition spéciale nommé ShakeSpeak. Plutôt que de tenter de prédire votre prochain mot, comme est l'habitude des logiciels de SwiftKey, ce clavier tente de prédire plutôt ce que Shakespeare tenterait d'écrire pour compléter un de ses classiques versets. Le résultat doit être plutôt divertissant, mais il pourrait être étrange de laisser l'application ouverte la prochaine fois que vous allez texter votre plus récente conquête, au risque de lui envoyer des booty textes du genre « Ah, eussiez l'ardent désir de couronner mon armement de vos badigouins en cette libidineuse vaprée. » Puis on sait tout ce que ça mène, des petits textos cochons comme ça, hein? Hashtag Shakespeare and chill.
Le Journal de Montréal. Créchubin.
Contient de l'écrapou.
Yes.
Bon, hein? Hey, un petit peu de nouveau cette semaine. Je tente quelques regroupements par catégorie de mes commentaires du Journal de Montréal. Je commence avec la catégorie « What the fuck » ou la catégorie
okay. Hein?
De Mathieu.
Fait plaisir. Je pense.
Donc, il y a « Sad Man Really Sad » qui nous dit qu'il... J'allais dire « doit être concierge », mais ça, c'est un gag d'avant le show. qui dit « Encore une fois, malade n'égale pas coupable. Ça va être quoi la prochaine fois? Le sexe pendant l'accouchement? »
Hein?
Hein? Oh, God!
Est-ce que c'est méta? Je peux même plus faire « hein?
» Il y a « Opinion personnelle », c'est le nom, qui dit « Pas besoin d'essayer en touchant ma grand-mère pour savoir que ce n'est pas excitant.
» Hein?
C'est de la campagne, ça.
Hashtag Saint-Lin. OK, c'est bon.
Comme j'ai un peu laissé tomber le Trudeau Watch, là, j'aime quand même trop mon drop pour le laisser tomber, donc je le recycle.
Monsieur Justin J.P. Trudeau.
Just watch me. Donc, on a Oncle Bingo qui dit « Comme si on n'en avait pas assez d'artistes inutiles au Québec, il a fallu que Justin en importe davantage. » Puis là, davantage, comme avec un apostrophe. Là, parce...
Ben oui. Il va s'en dire.
Bumblebee qui dit, j'imagine que c'est le vrai. Là.
Oh, c'est le Charles d'un Transformer.
Voilà.
Qui dit, c'est celui qui parle pas.
Ouais, c'est ça. Il tape quand même. Ouais. Ça va être 65 000 d'ici la fin de 2016, virgule E. En tout cas. Ensuite, Trudeau, comme avec un dos de Homer, genre, hein, veut faire rentrer 300 000 réfugiés de partout de l'Afrique. On est fini comme pays avec lui à sa tête. Puis là, ben, plein de belles fautes qui font que ça fait mal aux yeux. Mais soudain, surprise! Un commentaire positif dans ce sujet. Moi, je suis content. Là, c'est écrit comme argent content. Là, ça rend la chose drôle.
Je suis compétent.
Ah oui, c'était Kenneth de Beer qui donnait. Rendre à Kenneth de Beer ce qui est.
Shout
à
out à Monsieur de Beer.
Le content, comme l'argent, c'est pour donner plus de valeur.
Voilà. Donc, il dit, moi, je suis content de l'immigration au Québec parce que depuis, les grosses m'achalent plus.
Aïe, aïe. Vas-tu, Jeff?
Ça fait mal, hein?
Fait mal à mon Québec.
Je vais voir ça.
Un peu bien léger, calice.
Sur d'autres sujets, d'autres commentaires positifs.
Commentaires.
Ben, à force de lire avec les fautes, ouais. Gomme Citron qui dit « Moi, j'aime les pauvres. Ça là me motive tous les matins à aller travailler très fort pour gagner ma vie afin de ne pas être comme eux. »
Ah,
ouais, c'est un beau commentaire positif. Hein? De la motivation. Tant qu'à recycler d'autres anciens segments, là, dans la suite de mon interminable segment Shadowrun, il y a Beau et Chaud qui dit « On ne naît pas transgenre, homosexuel, criminel. On le devient à cause du milieu, de parents incompétents, insouciants, absents ou simplement mentalement déficients dans une société malade et totalement dystopique. Hein, »
C'est fluide.
C'est fluide.
C'est un commentaire de la part de Beau et Chaud.
Beau et Chaud.
Ben écoute, tu me signe quand que Shabada va faire un commentaire.
Ça me prend plaisir. En fait, de la manière que les comptes doivent être fermés souvent sur ce truc-là, ça peut bien que ce soit la semaine prochaine. Parlant d'univers dystopique, là, j'ai un commentateur qui s'est amusé à pousser à l'extrême la nouvelle de la vente de Saint-Hubert à des intérêts ontariens. Et je vous jure, c'est presque aussi épouvantable que la montée des méga-corpos dans Shadowrun, justement. De Joseph qui dit « Imaginez-vous les colliers... » Oui, non. On va recommencer ça. « Imaginez-vous les colliers purs noisettiers vendus à des intérêts ontariens? » Puis... comme c'est impossible de faire un segment de commentaires sans avoir un solide commentaire misogyne qui nous donne le goût de trouver le dude puis de lui retirer son permis de port de pénis.
Oh. Merci.
Il y a Alain qui dit « Moi, ma lave-vaisselle, pour qu'elle performe bien, je lui fais des doux compliments sur sa beauté et la caresse tendrement. Ah. Ensuite, je lui dis « On continue quand tu auras fini la vaisselle. » C'est terrible. Hein? C'est terrible. Je les souligne.
Il doit tellement se trouver drôle en plus.
Colin, ça pas. Voilà, j'aime autant le dénoncer. Hein, pour rien que c'est loin d'être quelque chose.
C'est quoi le nom de l'utilisateur? Ça va à peine.
C'était juste Alain. Ben, avec un...
Juste Alain. Ah, après un certain déni, on a juste Alain.
Oui, mais c'était pas dans le dîner de con, le gars qui s'appelait Juste.
Oui, effectivement. Ouais.
Non, mais en fait, c'est parce que les noms de famille sont souvent
blurry
là, sur le site du. Ben, sur le vrai site, ils sont là, mais sur le commentaire du Journal de Montréal, ils sont.
Ça implique d'aller malheureusement visiter le site du Journal de Montréal.
Je préfère m'abstenir.
Ça, on fait pas ça.
J'ai un petit moment philosophique maintenant.
C'est assez. Non, mais. Hein?
Aucun respect pour personne. Moi. J'ai Yves B qui dit, comme on dit souvent, nourris un dindon puis il va venir chier dans ton salon. Bon, dans mon coin, c'est point des noms, mais un cochon. J'imagine ici quand même qu'on fait référence plutôt à cette grosse nouvelle de TVA Nouvelles.
J'étais tendue sur mon couch. Je vois une grosse bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre. Je crie au mur. Je prends mes couvertes. Je m'abris par la tête. Ça fait kaboum. Il s'en vient en bas. Je criais. Il y a une bébite noire dans le salon.
Céline Poulain est encore sous le choc de l'entrée fracassante d'un dindon sauvage à l'intérieur de sa résidence du secteur Templeton.
Dis-moi qu'il y a quelqu'un qui a fait un remix là.
Oh, ça doit, auto-tune là. À la genre Kimi Schmidt là.
Il y a une petite pépite noire dans mon salon.
Bref. Ouais. Fait que pour ceux qui connaissent pas la nouvelle, googlez Dindon Sauvage TVA Nouvelle puis amusez-vous. Je termine avec un petit méli-mélo. Il y a Vive la Pêche qui dit c'est quoi ça les préliminaires? Pierre Montréal qui dit maudite météo, plus capable. Mm-hmm. Et Kathleen qui dit blablabla.
Ah, Kathleen qui chantait « Ça va bien ».
J'imagine.
Mm-hmm, ça a l'air.
Voilà pour les commentaires de la semaine.
Donc, cette semaine, on fait un petit peu différent. Cette semaine, j'ai pensé nous ramener un petit peu dans le passé. Puis faire un nouveau segment, en fait. Un segment
hey,
qui va
appeler... Hey! Hey!
C'est lui qui parle de l'histoire, là.
Ça parlait de l'histoire, je sais pas les...
Non, mais c'est correct, il a fait une réflexion.
Oui, c'est ça, fait que je te vois. Donc, en 1980... Alors, donc, comme il y a, cette semaine, j'ai pas vraiment joué à un jeu notable qui m'avait valu d'en parler ici sur le podcast.
Non, tu l'as dit que t'as joué à Destiny.
Oui, ben, c'est ça. Mm-hmm. Mais il y a un jeu qui j'avais, ça fait un petit bout de temps que ça me chicotait, que j'avais envie d'en parler. C'est un jeu, c'est un des classiques. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une chronique sur les classiques des jeux vidéo?
Classics. Carry on my wayward son.
Don't you cry no more. Donc, avant Fallout, avant que la science-fiction passe des voitures volantes aux paysages désertiques, des hivers nucléaires et des villes abandonnées, en 1980, il y a un jeu qui a vu le jour dans les arcades, un jeu qui s'appelait Missile Command. Missile Command, c'est un jeu qui est sorti dans les arcades justement en 1980, qui était développé par Atari, par un développeur qui s'appelle Dave Thurer.
Pas Dave.
Petit Dave. C'est un jeu qui est considéré aujourd'hui comme étant un des jeux les plus notables de l'âge d'or des arcades. C'est un jeu qui... encore aujourd'hui, il est très, très pertinent, autant par son thème, puis par le ton du jeu, que par le design qui se cache en arrière. Fait divers, le jeu a été mis en marché un 26 juillet 1980, ce qui aurait coïncidé avec le jour de ma naissance si je serais né 4 ans plus tôt.
Si j'étais né.
Si j'étais né, t'as raison.
Le nombre de fois qu'on se dit « Hey, on va donner une punition à Jeff parce qu'il a collé un si. » Ouais,
juste siffler. Je peux pas
te siffler parce que je suis sur l'autre page.
Ah, c'est bon. Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas Missile Command, c'est un jeu qui joue avec dans les arcades avec la boule, non pas avec les boutons et les joysticks. C'est avec la fameuse boule qui joue aussi au bowling ou à certains jeux de baseball, je pense. Ou
le trackball.
Ouais, le trackball pour les connaisseurs. Donc, c'est un jeu avec la boule, on peut déplacer une cible dans l'écran à travers le ciel. Et le but du jeu, c'est en utilisant trois boutons, on lançait des missiles anti-missiles. En fait, on sert un petit peu, on contrôle un bouclier anti-missile finalement, dans le but de se protéger contre les attaques des missiles qui viennent du ciel, qui viennent d'un ennemi quelconque, qui veulent détruire nos cités. En fait, il y a 6 villes qu'on doit défendre. On a 3 batteries de missiles. Chaque batterie a 10 missiles qu'on peut envoyer. Et si une de nos batteries est détruite par les attaques des missiles ennemis, mais on ne peut plus s'en servir, donc on tombe avec de moins en moins de ressources. Et ce qui est intéressant au niveau là, du design du jeu, c'est que la batterie de missiles du centre, les missiles étaient plus rapides, allaient plus vite, puis il y avait certains ennemis qui pouvaient juste être détruits par ces missiles-là. Avec le temps, il venait.
Faut le savoir, par exemple. C'est pas très indiqué.
Mais comme tous les jeux d'arcade, c'est des choses qu'on apprenait.
C'est un jeu que je trouve particulièrement intéressant pour plein de raisons que tu vas nous parler, je suis certain. Oui. J'étais pas au fait de ce détail.
Mais tu sais, c'est un jeu comme c'est un vieux jeu. C'est rare qu'on passe beaucoup de temps à jouer aujourd'hui. Mm-hmm. On va l'essayer un petit peu. C'est rare qu'on passe 4 heures à jouer à ce jeu-là. Pourtant, dans le temps, il y avait des concours des gens qui pouvaient jouer pendant des journées complètes au jeu. Sur la même partie, en fait. Donc, un joueur, évidemment, qui passe à travers les 10 missiles de chacun de ces trois bases, n'a plus de missiles et doit assister à la destruction de ces cités une après l'autre.
Dans le terme scientifique, il est dans la merde.
C'est ça. C'est un jeu qui se démarque par le fait que c'est impossible de gagner le jeu. Le jeu va juste continuer encore et encore et encore jusqu'à temps qu'on en devienne de plus en plus rapide, avec de plus en plus d'ennemis, de plus en plus de missiles qui vont tomber du ciel jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à temps qu'on échoue.
Est-ce qu'il y a un kill screen?
Il y a un kill screen. Okay. À la conclusion du jeu, justement, quand on meurt, ça l'affiche seulement The End. Et non pas un game over comme on pourrait avoir avant. Ça explique The End, ce qui vient supporter un petit peu la narrative à travers tout le jeu. On en reparle un petit peu tantôt. À l'exception, si on bat un high score, à ce moment-là, le kill screen est remplacé par un message qui nous demande aux initiales juste pour se connecter. Quand le jeu a été designé à l'origine, les 6 villes qu'on doit protéger en bas représentaient des villes réelles de la côte ouest américaine en Californie. Donc, c'est là que le développeur était basé, c'est de là que Dave vient. Donc, c'est des villes de son voisinage, de sa vie quotidienne. Donc, c'était Eureka, San Francisco, San Luis Obispo, Santa Barbara, Los Angeles et San Diego.
Est-ce qu'il était identifié d'une façon quelconque?
Dans les premières versions, les villes étaient identifiées. Puis c'est un choix de design où ils ont retiré le nom des villes, tout ça, pour rendre anonyme.
C'est quand même intense.
C'est quand même intense, mais c'est probablement que le fait qu'il ait retiré le nom des villes, c'est ce qui a rendu le jeu un peu intemporel, où il est encore populaire aujourd'hui. Puis chacun va l'adapter à sa propre...
International aussi. Là,
ouais. Fait qu'on peut tout l'adapter à notre propre réalité une fois qu'on joue à travers le jeu. Le jeu a, durant son design, a causé des cauchemars intenses à tous les mois pendant des années après avoir terminé le travail sur le jeu. Dave Thoreau, le développeur, a fait des rêves où sa ville était détruite par les missiles nucléaires, les attaques nucléaires. Faut savoir que c'est un jeu qui a été fait en 1980, on est en plein cœur de la guerre froide. La menace là, de l'URSS puis qui voulait attaquer justement les missiles qui partiraient de l'URSS vers la côte ouest américaine. La menace était très, très, très réelle. Les gens vivaient un petit peu dans ce stress-là. Et lui, il s'est plongé dans ça, puis il s'est mis à développer ce jeu-là. Puis ça l'a vraiment marqué. Puis ça a pris des années avant qu'il puisse s'en sortir de tout ce cheminement-là.
Mais je trouve ça intéressant, justement. Il y a souvent des questions qui sont relevées au sujet de faire des jeux sur des sujets d'actualité. Puis... avec une distance énorme. Enlevons le fait là, que pour nous tous, un jeu qui a cet âge-là est très abstrait. À ce moment-là, c'était la technologie de l'époque, donc le niveau d'abstraction n'était pas aussi flagrant. Puis il parlait d'une peur très, très actuelle.
Oh, oui.
Fait que là, j'ai le débat de parler, comme il y a un jeu qui n'est pas sorti, qui devait être publié par Konami, qui s'appelait quelque chose à propos de Fallujah, à propos d'une des batailles de... bref, un des conflits avec le conflit actuel de la mer américaine au Moyen-Orient, etc. Puis le jeu n'est pas sorti parce qu'il y avait beaucoup trop de controverses alentour. Puis c'est intéressant de voir que si tant d'années plus tard, justement, c'est quoi le résultat d'un jeu comme ça? Ben, c'est que peut-être que oui, le niveau d'abstraction à cause de la distance historique est grand, mais si le jeu est bon, si le jeu a quelque chose à apporter, sa valeur demeure. T'sais. Je pense que c'est
le fun de regarder comme ça. C'est que la version du jeu qu'on connaît, c'est la version du jeu pour laquelle le développeur s'est battu pour la faire comme ça. Et c'est lui qui a poussé ses idées. Parce que l'idée originale, le projet original, c'est son boss qui a proposé, après avoir vu une photo d'un radar américain qui scannait les avions, puis ça, puis le trafic aérien, il s'est dit « je veux un jeu qui ressemble à ça ». Puis c'était vraiment... il voulait vraiment vendre son jeu dans l'idée. Tu sais, à l'époque, les mœurs étaient un petit peu différentes, puis le journaliste, puis toute l'idéologie était un petit peu différente, où il fallait se montrer fort face à l'ennemi dans la guerre froide. Ça se voulait un jeu où on va attaquer d'autres villes avec des missiles nucléaires, ça voulait comme on va les écraser, puis c'est un jeu où tu devais gagner. Et lui, il a reviré ce jeu-là à l'envers. Puis c'est là que le jeu devient vraiment intéressant, parce que le jeu, il se démarque par le fait que c'est un jeu défensif et non pas un jeu offensif. Quand le développeur a réalisé que les missiles pouvaient détruire des villes entières, mais il ne voulait pas placer le joueur devant la possibilité de commettre un génocide dans le jeu. Puis l'idée de défendre son pays, c'est un concept que les joueurs pouvaient être fiers de ce concept-là. Ils pouvaient facilement s'y associer, s'y rattacher. Puis à travers cette idée-là, cette association-là, et à travers les mécaniques du jeu, ce que le développeur a voulu faire, c'est amener une réalisation, c'est que petit à petit, à force de jouer, tu finis par réaliser qu'il y a un choix qui s'impose à toi. C'est la mort d'une minorité pour la survie d'une majorité. Parce que c'est immanquable avec le nombre limité de missiles que tu as, puis le nombre toujours grandissant là, de missiles qui descendent. À un point dans le jeu, tu dois faire un choix. Il faut que tu arrêtes de défendre certaines de tes cités pour te focusser sur d'autres, sur le côté.
Puis tes lance-missiles.
Puis tes lance-missiles, exactement. Donc, tu vas devoir laisser les villes être détruites pour protéger les 3 ou 4 villes que tu veux protéger sur le côté. Fait que ça fait partie de la stratégie du jeu, si on veut, pour atteindre les high scores, de choisir quel côté tu priorises ou quelle ville tu priorises. Il y a différentes stratégies. Les joueurs professionnels ont développé des différentes tactiques. Mais tu as un choix à faire à ce niveau-là.
Mais je trouve ça super le fun que tu parles de stratégie, parce que quand on parle de jeu d'arcade, souvent, on n'imagine pas de la stratégie. Là. On imagine qu'on est à l'arcade, on est en train de jouer des pitons, puis on fait avec Pac-Man. Puis... Mais même un jeu comme Pac-Man a quelque chose en arrière, mais c'est super
pas...
intéressant. Là.
Moi, c'est pas ça qui m'a accroché dans le discours, c'est l'idée, par contre, où est-ce que faut jamais oublier que dans un jeu, on court après des points. Là. Fait que ouais. la narrative et la métaphore prend le second plan à la quête du score. T'sais. Comme « fuck it, la ville, là, je veux des points.
» mais ça reste que c'est quand même un des, sinon le premier exemple de narrative qui est présenté aux joueurs entièrement à travers le gameplay. Il n'y a aucun flavor text, il n'y a aucune histoire, aucun préambule. Il y en avait au début au niveau du cabinet. Le haut du cabinet, il affichait des lumières, des choses comme ça. Et avant de le mettre en marché, ils ont scié le dessus du cabinet pour retirer tout ce qui donnait un concept ou un environnement à ça, pour laisser vraiment seulement l'expérience du gameplay. Puis c'est ça qui perçait à travers. Le jeu, ça te force à faire la décision. Est-ce qui tu sacrifies pour protéger lequel de tes villes? Le jeu est rapidement devenu une représentation du cauchemar de la guerre froide dans lequel le développeur y vivait, puis durant lequel le peuple américain vivait à ce moment-là aussi pendant le développement. Puis je pense que c'est là le génie derrière Missile Command, c'est sa capacité d'exprimer une idée simplement à travers justement des mécaniques qui sont extrêmement simples. Les missiles, c'est juste des petits points illuminés dans l'écran qui descendent. Les villes, c'est des petites silhouettes de gratte-ciel en deux tons. L'ennemi, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de nom. Il est totalement absent du jeu. On le voit jamais. On voit juste des petites traces qui descendent avec des petits points lumineux qui représentent les missiles. Puis malgré tout, le jeu, il nous présente rapidement ses mécaniques. On les comprend rapidement. C'est super simple à comprendre comment le jeu fonctionne. Puis plus on y joue, plus on commence à comprendre les choix qu'on doit faire. Puis ça vient nous challenger moralement. Ça nous force à nous questionner sur justement l'impact que la guerre peut avoir. Puis c'est un jeu qui, parce que justement, on a enlevé les noms, aujourd'hui, le jeu en devient encore... On vit pas dans sous la peur autant que ça peut être le cas dans ces années-là. Mais la guerre, c'est quand même quelque chose qu'on entend parler tous les jours. C'est quand même quelque chose qui est super actuel. Donc de jouer un jeu comme ça, ça prend une réalité sur les choix peut-être que nos dirigeants ont à faire.
Puis je pense qu'il y a... Tu sais, il y en a qui pourraient écouter ça puis se dire... Alors, quand je joue à Missile Command, je pense pas au fait que ma ville pourrait se faire détruire par des missiles. Là. Le niveau d'abstraction est quand même énorme. Là. Puis, au-delà du contexte historique, je pense pas que c'est tout à fait valide de se distancer complètement comme ça parce que je joue à n'importe quoi pendant une période prolongée. Ouais. Puis, essaye de pas penser au lore, à l'univers qui entoure un jeu. Fait que si tu penses que tu joues à un jeu d'arcade puis que t'es vraiment... épris du jeu, pour en absence d'un meilleur terme, mais que t'es vraiment comme tu tripes, là, t'as du fun, puis tu joues, tu vas commencer à considérer tous les détails de qu'est-ce qui se passe, puis oui, ça va se passer dans ta tête, là, oui, c'est un niveau abstrait, mais à limite, en fait, je trouve ça plus intéressant puis plus valide quand une narrative t'est proposée comme ça, quand t'es laissé à remplir les détails, puis que c'est drôle que tout le monde va arriver à peu près à la même conclusion.
Bon, mais Missile Command devait bien être un des... Pour ceux qui auront lu Armada, il devait être un des affaires qui faisait référence dans le livre. Pour ceux qui n'ont pas lu Armada, là, le livre de j'oublie le nom de l'auteur.
Ernest Cline.
Merci. Dans le livre, il parle qu'il y a plein de vieux jeux qui sont une espèce de début de training pour se battre contre des aliens. Là. Fait que tu sais, je suis sûr qu'il y a un jeu. Je m'en rappelle plus dans le livre, il le nommait. Là, mais...
C'est un jeu qui est référencé là, à maintes et maintes reprises là, dans la pop culture. On parlait dans l'épisode de Chuck, là, un des épisodes de la télé série Chuck où il doit jouer au jeu pour.
C'était une bombe,
genre. Ouais, il y a un code de quelque chose qui est caché dans le jeu. Dans Terminator 2, au début, quand le T-1000, il rentre dans l'arcade puis qu'il cherche John Connor. Dans le fond, le jeu d'arcade auquel il est en train de jouer avant qu'il doive se sauver, c'est Missile Command. Puis, il suffit de chercher un petit peu les références, puis il y en a une tonne. Le jeu a été fait sur presque toutes les plateformes, même sur les plateformes mobiles. Il est disponible sur Android, sur iOS, le jeu, si vous voulez jouer. C'est différent un petit peu, les mécaniques ne sont pas pareilles, mais le jeu existe quand même. Puis, dans les versions... Qui ont suivi un petit peu plus tard, dans les années 80, ils ont essayé de donner une histoire, donner un thème. L'ennemi, évidemment, était devenu une race extraterrestre, des choses comme ça.
On créait une distance avec la réalité.
Hein? C'est ça, mais reste que le message est tellement fort qu'ils ont même créé une trame audio qui est inspirée des feuilletons radio là, dans le temps. J'en ai un petit extrait.
While our missiles are designed exclusively for defense, the Krytolian weapons seem geared for attack. Ladies and gentlemen, it is with the heaviest of hearts that I must tell you, it now appears that war is at hand. A Krytolian attack is expected any day. As we speak, our ambassador to Krytol is meeting with Jarth the 11th, head of the Krytolian Council, in an attempt to avert what would be a tragic war
for both our people.
C'est écœurant, c'est magique.
Je...
Puis ça, c'était sur un 45 tours.
D'où le grinchage.
C'est ça, le cracking.
Ouais.
Mais je trouve que, je pense qu'à la limite, ça supporte la narrative originale.
Ben, ouais. Ça venait la représenter, mais où on remplaçait les Russes par des extraterrestres. Puis, bon,
ouais, ben, en plus, considérant qu'on était parfaitement hors contexte, là, ça aurait pu être un autre pays, là, les Krytos, je sais pas trop quoi. Là.
Ouais.
Ça aurait pu juste être une autre nation.
Puis, tu sais, finalement, la morale de l'histoire qui est racontée par Missile Command, c'est ben vous pouvez pas gagner. T'sais, au mieux, on peut obtenir quelques minutes de jeu supplémentaire, on peut repousser la destruction de nos cités puis la mort de nos habitants. Puis on s'aperçoit que c'est un motif suffisant. Puis on s'accroche à ces quelques minutes de jeu supplémentaire-là dans l'espoir qu'on va permettre à la population de nos villes qui sont une protection de profiter un petit peu plus longtemps peut-être de leur vie mondaine puis tout ça. C'est un exploit de taille pour un jeu dont les visuels datent de l'époque du Atari 2600, quand même. Quand ça, à nous emmener là. C'est un jeu qui nous permet d'apprécier justement l'horreur de la guerre nucléaire puis du combat humain qui se cache en arrière. Puis non seulement c'est une preuve que les jeux peuvent transporter une narrative extrêmement intéressante, mais qu'ils peuvent le faire sans avoir besoin de la complexité ou de la perfection visuelle des AAA modernes.
Mais le gameplay avec le trackball, c'est écœurant. Il n'y a pas eu des millions de jeux. Je trouve que c'est ça. Vraiment le fun à jouer. Là. Je l'ai essayé, je pense, pour la première fois en arcade quand on est allé à Arcade Montréal. Moi, je pense la première fois. Puis le plaisir que tu as à rouler la boule pour envoyer des missiles, c'est...
J'allais dire, tu sais, encore une fois, moi et JF, on a des cabinets MAM, des arcades virtuelles, entre guillemets. On n'a pas de trackball sur nos machines. Puis quand je suis allé justement faire un tour à... c'était quoi? Game On?
L'exposition, oui.
L'exposition, merci, au Centre des sciences. Il y avait justement trois jeux qui avaient le trackball, puis j'étais comme calique qu'il n'y a aucune de nos méthodes d'entrée qu'on a dans les jeux aujourd'hui qui émule de près ou de loin, autant qu'un joystick pourrait le faire à un certain degré. Il n'y a rien qui a ce feeling-là. Puis en plus, quand tu juxtaposes dans nos têtes un jeu de cette époque-là, le contrôle est très, très binaire. C'est des flèches en haut, en bas, gauche, droite. Puis là, t'as un contrôle qui est parfaitement précis. Ouais. C'est fou, là. Tu sais, quand tu joues à Centipede, mettons, qui sert de la boule aussi, ton déplacement, là, il est au pixel dans l'écran. Puis tu te dis, calique, c'est weird d'avoir un contrôle parfaitement analogue, qui a pris nous autres jusqu'au 64 avant d'avoir des contrôles analogues dans les consoles à la maison, je parle, avec ce genre de visuel-là qui prédate le Nintendo classique, mettons, pour les gens de notre âge. Fait que c'est comme, on dirait que c'est une facette de l'histoire qui est dure à reproduire à la maison parce que les contrôles le reproduisent mal.
Mais c'est un contrôle qui s'exporte pas bien dans tous les styles. Fait que, aujourd'hui, nos contrôleurs sont multifonctions. On joue à tout avec la même manette.
Puis pourtant, calique, il me semble, quand on était tous à l'école, là, les ordinateurs, il y avait tous des trackballs dessus. C'était tellement comme... Il y en avait un peu partout en remplacement de souris, des trackballs. C'était quelque chose de relativement commun.
C'est une mode, en tout cas. Là.
Mm-hmm. Puis c'est ça. Fait que c'est... Je trouve ça vraiment fascinant qu'on en parle peu, puis que pourtant le design de ces jeux-là reposait intégralement sur ces méthodes de saisie-là.
Oui, effectivement.
Avant qu'on change de sujet, là, moi, je reviens en arrière un petit peu. Là. Jeff, je te donne une pénalité quand on parle de kill screen, parce que j'en ai parlé dans les jeux, mon épisode sur les glitches. Oui. Quand on parle d'un kill screen pour un jeu de cette époque-là, c'est quand tu arrives à, entre guillemets, battre le jeu, ou est-ce que dans le fond, tu dépasses ce qui avait été prévu par le développeur, puis il y a un glitch qui t'empêche de continuer. Là. Okay. Comme le kill screen de Pac-Man qui fait que tu peux pas pogner assez de pellets pour passer au niveau suivant, ou le kill screen de Donkey Kong qui fait que tu n'as pas assez de temps pour faire le tableau. Mais c'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je demandais s'il y avait un kill screen dans Missile Command.
Qui est comme une fin.
Y a-t-il un moment où le jeu t'empêche de continuer parce que.
Non, mais en fait, même le jeu bug un petit peu comme tous ces jeux-là de l'époque. Là. Quand t'atteignais quelque chose comme 2 800 000 points, quelque chose comme ça qui est comme le maximum que tu pouvais avoir, le jeu resetait. Mais tu gardais tous les équipements que t'avais.
Fait que c'était possible de continuer.
Fait qu'il y avait comme réussi à. Il y avait comme. Codé pour l'éviter le kill screen, finalement.
Ou bref, ça n'avait pas d'impact réel sur la mécanique de jeu.
Non, mais de toute façon, c'est un jeu qui t'es voué à finir par mourir puis par perdre.
C'est clair.
Les joueurs, les plus grands joueurs du monde, font jouer une journée au complet sur la même partie sans arrêter. Là, les high scores sont incroyablement hauts, ça n'a aucun bon sens.
C'est une pub de Deepens, ton affaire.
Ah, puis en faisant mes recherches sur YouTube, il y a des théorie de conspiration de combat de high score sur Twin Galaxies.
Twin Galaxies.
Le site où ils gardent les high score. Il y a des affaires de conspiration de qui, en tout cas, c'est il y a des gens qui ont pris vraiment ça à cœur, bon, les high score.
On dirait que Twin Galaxies attire ce genre de controverse-là.
Aujourd'hui, dans l'univers des Divan Quest, 11 avril. Donc, je commence en 1814. C'est la conclusion du traité de Fontainebleau. Bleu, Fontainebleau, qui consacre l'abdiction de Napoléon et son exil de la France. Il est depuis devenu maire de la ville de Québec. 1865.
Tu cherches-tu une job à Radio-Canada, toi, là?
Ouais. En tout cas, j'en aurai pas au Journal de Montréal.
Contient de... OK.
1865, dépôt du brevet sur une méthode de chauffage du vin par un dénommé Louis Pasteur. Hein. Un petit shout-out à Louis, hein, qui invente une méthode pour conserver l'alcool, puis on connaît ça surtout maintenant pour conduire, pour conserver d'autres produits alimentaires.
On t'aime, Louis.
naissance. Hey, je me rends compte que depuis le temps que je fais ce segment-là, je souligne souvent des naissances, mais sans vraiment comme souligner le fait qu'en même temps, c'est l'anniversaire de ces personnes-là, dans le fond. Donc, je me rattrape.
Happy birthday to you.
Saviez-vous que cette chanson-là, il y a des droits d'auteur dessus encore valides à ce jour?
Comme bonne fête, fait,
genre, on peut se faire fucking... Genre, tu sais, les copyright takedown notice de YouTube dont on a déjà parlé, là. C'est valide.
Pour ça, là.
Et c'est pour ça que dans les films, il n'y a jamais Happy Birthday.
Mais dans Karate Kid, il l'avait.
Très peu dans les films. Parce qu'il faut que tu payes des droits pour utiliser Happy Birthday.
Ça appartient à qui?
On va bien avec ça.
On revient après avoir eu le copyright takedown sur YouTube. Donc, 1755, le médecin anglais James Parkinson est attiré par une maladie qui, étrangement, porte son nom. Non, sans blague, il a fait des recherches sur cette maladie-là, puis plus tard, on l'a rebaptisé à son nom. Là. Justement, le 11 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. J'en profite pour saluer le courage des gens qui sont affligés de cette maladie-là et de leur famille. 1925, Pierre Péladeau. Là, je sais pas si je peux faire des blagues sur le père de ton boss, Jeff. Ben, je veux dire, le père en fiducie sans droit de regard de ton boss. C'est ça. Fait que je prends pas de chance. 1977, la chanteuse québécoise Annick Jean. Bon, j'ai pas vraiment de gag sur elle, là. Je ferai quand même pas de gag facile sur le fait qu'on n'entend plus parler d'elle. Par contre, moi, ce que je voulais faire, c'est souligner le fait qu'elle se trouve à seulement deux niveaux de séparation sexuelle de notre actuel premier ministre, étant donné que présentement est avec Patrick Huard, qui était lui auparavant avec Sophie Grégoire, l'actuelle première dame.
Les degrés de séparation de verge.
Niveau gaming, en 97, la version japonaise de Alundra au PS1, qui est un action RPG auquel j'ai pas beaucoup joué à l'époque, mais que je veux vraiment rejouer, parce que le peu que j'ai joué, ça a été un gros, gros, gros plaisir.
Calisse que c'est bon, ce jeu-là. Ah, sérieux, c'est un des hidden gems du PS1, si vous
voulez. Ouais, ben c'est ça, j'ai revu le nom, j'avais commencé à jouer, mais ben ça fait partie de ma liste de jeux à jouer. Fait que possiblement un futur Divan Quest. Sinon, pas grand-chose. Là, c'est pas une grosse journée de release. Mais pas grand-chose. Il y a bien des affaires, mais rien qui attire l'attention. Niveau techno, 1936, Konrad Zuse, un pionnier allemand de l'informatique, dépose une demande de brevet pour une méthode d'exécution automatique de calcul qui va mener à l'élaboration du premier ordinateur allemand. 1970, lancement de la mission lunaire Apollo 13, mission là, pendant laquelle Tom Hanks a lancé la fameuse phrase suivante.
Houston, we have a problem.
En passant, Tom, parce que je sais qu'ils nous écoutent, là. Rigueur. La vraie phrase prononcée par l'astronaute Jack Swigert était « Houston, we've had a problem » au passé. Donc,
moi, le manque de... moins dramatique.
Le manque de rigueur, pas capable. 2012, lancement du Kickstarter de la première montre intelligente Pebble. L'énorme succès de la campagne va mener un regain d'intérêt envers les montres intelligentes là, à ce moment-là. Pour vrai, Pebble a fait une méchante belle job en abandonnant l'écran tactile puis en mettant des boutons physiques. Pour vrai, good job, Pebble, good job. La suggestion d'Ivan Quest du jour pour le nom des enfants à naître aujourd'hui, toujours le selon Wikipédia, Stanislas.
Et Simonac.
Voilà qui fait le tour pour l'univers de Ivan Quest.
Blade and Steel.
Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti très, très récemment, c'est-à-dire le 4 avril dernier, et qui a attiré l'attention de la presse du gaming très rapidement. Il s'agit du jeu 1979 Revolution Black Friday The Ink Stories. Il s'agit d'un jeu d'aventure qui copie largement le format auquel Telltale nous a habitués avec ses séries Walking Dead, Fables, A Wolf Among Us, Game of Thrones et une pelletée d'autres, mais qui nous plonge au cœur de la révolution iranienne de 1979. Le jeu est la création de Navid Kansari, un développeur irano-canadien, d'ailleurs né à Montréal. Il a vécu en Iran jusqu'à l'âge de 10 ans, où il a quitté le pays avec ses parents après la révolution de 1979. Bon, je pense pas être le seul en disant que je connais pas grand-chose de l'Iran et de la révolution de 1979. Là.
Effectivement.
Voilà. Bon, tu sais, oui, j'ai vu Persepolis, puis j'ai vu Argo. Bon, c'est, ça s'arrête pas mal là. Ouais, c'est ça, ça me fait du contenu un peu. Mais avant de jouer à 1979, j'aurais pas vraiment pu vous faire un résumé des enjeux puis de l'issue de la révolution iranienne. Donc, il va sans dire que mon expérience de jeu va sûrement varier beaucoup de quelqu'un qui serait plus familier avec les événements, mais je pense pas que c'est quelque chose, dans les deux cas, là, que ça affecte négativement la perception du jeu.
Mais en même temps, je pense que l'expérience que toi t'as vécue va être celle que la majorité du monde qui vont jouer au jeu vont vivre de toute façon. Là.
Voilà, puis surtout de la part d'un développeur, en fait, d'une personne qui a vécu les événements de près, puis qui s'est entouré exclusivement, et les voice actors et les artistes qui ont travaillé sur le jeu sont tous des Iraniens.
Ça me fait penser un peu à l'approche de voyons Never Alone, tu sais, si on veut là.
Mm-hmm.
Ouais. qui bon, c'était pas la réalité, c'était des légendes, mais il s'entourait de gens qui sont dans ces légendes là qui sont de ce peuple là, fait que je vois l'approche, j'aime l'idée.
Mais est-ce que le jeu est fait avec ça en tête que les gens ils savent pas de quoi tu parles nécessairement?
Ben j'ai c'est une bonne question. Je pense que oui, il essaie de nous en apprendre énormément sur la situation, qui est un des plus gros des plus belles choses du jeu, finalement, tout ce qu'il nous apprend. Mais il y a aussi un côté où est-ce que je pense que c'est dur de s'extraire complètement de quelque chose qu'on connaît. Donc, pour une équipe qui est complètement iranienne, de se soustraire complètement à tout ce qu'ils savent, c'est difficile. Puis la situation est très complexe. Donc, d'en faire une belle petite synthèse avec une petite boucle sur le top, là, je pense pas que c'est vraiment quelque chose que le développeur aurait pu faire. Mais ça donne des choses intéressantes au niveau du jeu, puis je vais justement vous en parler un peu. Donc, au départ, on incarne un personnage qui s'appelle Reza, qui est un jeune photographe iranien de 20 ans, en tout cas dans les événements principaux du jeu, qui est de retour au pays après avoir été étudié en Allemagne. Le jeu est principalement présenté à travers une série de flashbacks qui explore les réponses que Reza donne ou pas alors qu'il est interrogé et torturé dans la prison de Evin en 1980. Donc, justement, assez rapidement, le jeu m'a surpris. Là. Dans la première scène d'interrogation, avant le premier flashback, Reza se fait crisser une volée. Là. On se fait torturer et interroger en prison. Bon, c'est pas le premier jeu où ce que notre personnage se fait battre. Là. Fine. Mais d'habitude, dans les jeux, puis surtout les jeux qui ont le format Telltale, donc les jeux de Telltale Games, l'histoire avance en prenant compte de nos choix, mais ça avance toujours. Il n'y a rien qui peut mettre fin au jeu. Puis là, ben, la première scène, mon personnage, à cause de mes choix, se fait battre à mort dans le fond d'une cellule. Puis je pense que ça donne le ton. À l'expérience qui suit. Le jeu a un souci de réalisme puis d'exactitude assez impressionnant, puis faire le coq pour défendre les convictions de mon personnage que je connais pas, ça m'a amené, ça a eu des conséquences finalement. Fait que d'un point de vue de design, je trouve que c'est une décision géniale, c'est bold, ça prend vraiment un développeur qui a confiance en l'expérience qu'il veut donner.
Ça donne le ton. Là.
Ça donne le ton.
Puis on s'entend que la majorité du monde vont faire comme, tu sais, assis dans ton salon là, c'est facile de dire je vais résister à la torture là. Fuck you, je dis rien.
Bref, à ce moment-là, le jeu fait ce choix-là de dire « Ben fuck it, tu peux faire non, 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 je t'appellerai pas de même jusqu'à temps que tu meurs. » Puis tu recommences la scène au complet parce que le jeu, évidemment, fait comme des checkpoints au début des scènes, mais le ton est donné. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont en arriver à cette conclusion-là parce que on est habitué que les jeux qui nous demandent des, qui nous posent des choix moraux, qui nous demandent de prendre des décisions, c'est excessivement binaire. Mm-hmm. On va être le pour parler de Mass Effect, là, on va être le Renegade ou le Paragon. On va être d'un bord ou de l'autre. Puis il n'y a pas de nuance.
Ouais, quand j'ai joué à Star Wars The Old Republic, là, tu peux décider d'être hyper evil, même que des fois tu fais comme c'est vraiment poche comme choix, mais je vais le prendre pareil.
C'est
une
caricature.
Ça me donne des dark side points. Pis,
c'est une caricature, puis le résultat de ton action est télégraphié d'avance, il est clair. Tu sais que c'est l'action qui va mal finir. Là, ça,
bingo. J'y reviens là-dessus, mais justement, l'idée de la clarté des résultats de tes choix, c'est quelque chose d'intéressant à explorer quand on accepte qu'on est dans une situation qui est réaliste. C'est pas si simple la réalité là-dessus. Mais bref, je vais y revenir. Donc, justement, le jeu est divisé en une vingtaine de courts chapitres, la majorité étant très guidée et ne demandant du joueur que de prendre des décisions et de suivre l'histoire. Mais les plus importants chapitres sont comme des grandes toiles, dans le sens photographique du terme, là, parce que justement, ton personnage étant photographe. Reza documente les événements qui l'entourent et le jeu présente des vignettes historiques très très détaillées. Même si le look visuel du jeu est est assez simple. Rappelle un petit peu les jeux de Telltale pour ceux qui sont familiers, mais en moins gros budget comme feel. Là. Fait que des fois, puis c'est un petit peu. C'est pas toujours uniforme au niveau de la quantité, de la qualité, excusez-moi. Des fois, il y a certains assets, certains personnages qui sont moins bien rendus. Bon, c'est un petit peu le côté indépendant là, qui ressort, qui va peut-être nuire un peu, mais ça jamais, ça ralentit pas le jeu. Là. Fait que tu fais comme, oh, ça c'est un peu cheap. Mais bon, les événements continuent quand même.
En même temps, quand t'es fan de jeux indépendants, moi, c'est le genre de truc que je passe facilement par-dessus en disant, ah, c'est pas une compagnie qui a eu 28 millions à mettre sur le jeu. T'sais.
Non, c'est ça. Ben, c'est plus,
coupeurs de budget.
C'est plus l'inégalité de la qualité qui fait un personnage. À un certain moment, il y a une fille qui est assise à terre avec un bébé dans les bras, puis il me semble que ça clashait là, le niveau visuel. Puis ça, t'as pas le choix de le remarquer. Oh, ouais. Mais bref.
Mais tu pardonnes, tu sais.
Absolument. Fait qu'on explore l'environnement dans ces scènes-là. On entend les gens parler, puis souvent, il y a une icône d'appareil photo qui apparaît au bas de l'écran. Puis là, on peut prendre des photos des choses qui nous entourent. Puis à ce moment-là, le jeu nous présente la photo qu'on vient de prendre côte à côte avec une photo historique du même moment pendant la Révolution iranienne. Puis le jeu a été fait en association avec un photographe du nom de Michael Sedboun qui a couvert la Révolution iranienne. Puis ça permet de toujours rappeler aux joueurs la réalité des événements. Le choix de ce détail-là dans l'environnement qu'on explore, il est informé par ces photos-là. Puis on a toujours accès à un complément d'information à chacune des photos pour en apprendre plus sur ce qu'on vient de prendre comme cliché dans le jeu. Puis, décrit comme ça, je sais que ça peut sonner comme du edutainment, là, comme des jeux qui se veulent éducatifs. Puis, mais je vous assure qu'il n'y a jamais un moment où ce que le jeu nous donne l'impression qu'on va se faire quizer là-dessus. Là. Les compléments d'information sont optionnels, un petit peu comme Never Alone. Mais comme j'arrivais un petit peu à froid là, sur l'histoire iranienne, etc., tu veux en savoir le plus, surtout que le jeu te demande de faire des choix. Donc, là, soudainement, t'es comme « Ouais, j'aimerais être le plus au fait des événements pour prendre une décision qui va me ressembler pour que mon expérience de jeu soit personnelle. » Fait que j'étais très, très curieux. Puis, toutes les vignettes ont été super intéressantes à explorer.
C'est ça qui est écœurant, là, c'est que c'est dans les jeux où est-ce que c'est optionnel, c'est écœurant. Là, c'est optionnel, mais quand tu décides de prendre le temps de regarder ou de t'informer par le jeu, ben ça t'aide à apprécier encore plus le jeu, je pense. Là, dans la manière que tu en parles, en tout cas, j'aime la façon que ça enhance le jeu. Là, ça...
Surtout dans le contexte où tes décisions sont pas blanches ou noires. Puis tu peux pas connaître d'avance la conséquence de ta décision, d'en savoir plus sur la situation. Ça doit devenir intéressant, tu dois être porté à vouloir le savoir. Mais écrit, il faut que je choisisse, mais je veux savoir de quoi je parle.
Tu finis par le devenir assez informé, au moins sur ta situation immédiate. Parce que le conflit dans son ensemble, c'est une chose, mais les événements que tu vis en étant au milieu de ces événements-là, ça devient un petit peu deux choses, même si c'est étroitement lié. Là. Mais tu prends des décisions par rapport à des individus dans ton environnement aussi. Puis ça permet au jeu de pas juste être un espèce de pseudo-documentaire. T'sais. À travers tout ça, Raisin interagit avec quelques personnes, justement, pour informer toutes ces décisions-là, qui représentent la plupart des points de vue des gens lors de la Révolution. Puis ça rend ça extrêmement crédible, mais honnête et un peu confus, justement. Fait que autant que j'ai pu en apprendre, ça reste très, très complexe comme situation. Puis d'avoir plein de personnages avec des convictions claires, ça, ben je suppose, ça reproduit bien la situation qui a mené à la Révolution. Donc, si j'ai un bémol à donner là-dessus, ben, c'est ce que je viens de décrire. Là. Fait que c'est que j'étais tellement occupé à essayer de découvrir l'époque, les détails, puis parenthèse, là, ça se passe justement en 78, le début des événements. Ça a beau se passer en Iran, à cette époque-là, les femmes avaient beaucoup de droits. Contrairement à ce qui est arrivé par la suite, au suite de la Révolution, les femmes ont perdu beaucoup, beaucoup de leurs droits. En fait, ça a été les plus grandes perdantes, probablement, de la Révolution iranienne. Puis on voit justement des femmes habillées comme n'importe quelle femme qu'on voit dans n'importe quel film des années 70 ici, avec des pantalons en jeans style haut, puis tout ça. Puis ça leur permet d'avoir des personnages excessivement crédibles puis très intéressants. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup parce que dans ce cliché-là qu'on a de l'Iran, etc., ben les femmes sont très, très dépouillées de leurs droits puis sont tristement uniformisées par l'habillement. Puis à cette époque-là, c'était pas le cas. Puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de se le rappeler.
Ouais, puis de l'apprendre là, aussi.
Ben, de l'apprendre, mais c'est tellement récent, là, toutes les voyons, le mot ne viendra pas. C'est quoi cette affaire-là?
Le chador, la burqa.
Toute la polémique qui a été faite sur la burqa et tout ça. Mon Dieu, c'est une polémique qui a été faite sur la burqa et tout ça. C'est récent, c'est d'actualité. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais personne ne sait de quoi il parle.
Fait que c'est ça. Fait que ça te force à te poser la question de voir que toutes les femmes sont là et qui sont extrêmement proactives. Puis, c'est juste comme, hein? on voit très très peu ça, justement.
Il y a un énorme disconnect avec ce qu'on en entend d'aujourd'hui et notre réalité qu'on connaît.
Justement. Fait que ça, justement, des fois, que le jeu en parle un petit peu dans une des informations additionnelles, justement, du rôle des femmes, mais ça, c'est sûr que tu te poses la question parce que notre perception de petit nord-américain de banlieue là, est tellement loin de ça que tu regardes ça et tu fais...
Banlieue, là, parle pour toi.
Je l'y étais un jour, je l'y étais toujours, mon Dieu.
Tu déménages pas, toi?
Bref, fin de la parenthèse. Fait que c'est parfois pas évident de prendre des décisions qui sont au niveau plus personnel pour le personnage en se demandant si on prend la bonne décision. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression que le jeu se fait un mandat de jamais donner une réponse claire à tes décisions. Les jeux de Telltale vont habituellement te donner les conséquences de tes actes très, très clairement. Mais ici, je pense que le jeu te met dans une situation où ce que tu peux pas gagner. Puis que les résultats de nos actes sont flous. Puis à quelque part, ça sert à l'histoire. Parce que peu importe ce qui se passe, la réalité ne te télégraphiera pas une réponse là, à ce que tu as fait. Là. Ça va venir avec le temps ou peut-être que quelqu'un va vraiment se rappeler d'un détail d'une de tes actions, puis c'est là que ça va venir te chercher. T'sais. Fait qu'il y a peu de jeux qui réussissent à faire ça sans sembler inconséquent. Mais ici, je pense que ça leur réussit. Ça sert au réalisme de la situation. Fait, bref, on parle d'un jeu qui est très court. On parle d'environ 2h, 2h30, selon l'exploration que vous en faites. Clairement, un jeu qui devait être au départ épisodique, parce que j'ai trouvé des entrevues préalables, puis c'était clairement conçu de façon épisodique. Mais les épisodes suivants n'arriveront probablement jamais. L'expérience est intéressante, puis elle semble pas si incomplète. En tout cas, pas plus incomplète que des films comme Days and Confused, là, qui présentent des tranches de vie où est-ce que tu le sais qu'il y a de quoi avant, puis tu le sais qu'il y a de quoi après, puis tu sais que tu n'auras jamais la réponse. Ça me donne plus ce feeling-là. Mais sachez que c'est une histoire à finir. Fait que si vous cherchez une petite boucle sur le top de l'histoire, etc., vous ne l'aurez pas. Okay? À moins que le jeu soit vendu à des quantités énormes, puis que ça leur permet de continuer l'histoire, mais ils ont quand même décidé de faire quelque chose de fini, puis qui est quand même ouvert comme narratif. La dernière scène du jeu montre des événements qui sont assez durs, malgré que le look du jeu aide un peu à atténuer la violence là, qui est présentée, mais vu le respect immense que le jeu a pour son contexte historique, il peut se permettre cette scène-là. On n'est pas dans le No Russian de Call of Duty, là. Okay? Mais sachez-le, si vous n'aurez pas un petit jeu d'aventure sympathique, là, il y a des événements durs dans le jeu, il le traite avec respect, mais c'est là, c'est une réalité de ce jeu-là. Fait que je conseille le jeu, il n'y a pas de doute, là, si vous avez suivi ce que j'en ai dit. Présentement, il est 13$ sur Steam. Là. C'est pas une grosse dépense. J'adore les jeux d'aventure. J'en ai déjà parlé. C'est d'ailleurs la troisième fois que je traite d'un jeu d'aventure sur le podcast. Puis on a ici un produit qui, malgré que c'est un produit très, très indie, puis parfois assez brouillon, qui élève les jeux vidéo dans l'ensemble. C'est un travail immense par une équipe qui est très, très dédiée. Puis j'espère que les ventes seront suffisantes pour leur permettre de continuer à nous conter l'histoire de Reza.
Réflexion. Sur la semaine. C'était pas notre meilleur, ça, les gars. Non, je ferais pratiquer avant.
Non.
Donc, ben, la semaine dernière, ça a été l'aboutissement d'un projet de plusieurs mois pour Monsieur Cassette, aussi connu sous le prénom de Papa. Alors que le bar Arcade Montréal.
On voit que t'as fait tes recherches là, avant de faire cette
semaine. Quoi son nom, Papa?
On a fait ça par plus de mots. Alors que le bar d'Arcade Montréal il a ouvert ses portes au public le 1er avril. Loin d'être un poisson, l'événement, ça a été un franc succès, puis l'endroit a même été complètement bondé. Pour être de circonstance, on pourrait peut-être même aussi dire que les gens s'y entassaient comme des sardines. Vas-y, Danny. Merci. Ça, c'est mes fans.
Ouais, tes fans.
Ça, boum! Mais plutôt cette semaine.
Ils viennent te voir tes shows aussi.
Boum!
Un rappel.
Mais plutôt cette semaine, l'attrait du fameux Barcade semblait toujours battre son plein alors qu'il avait lieu là, en dehors des enregistrements de Rétro Nouveau, évidemment, qui ont déjà débuté avant l'ouverture du bar. Il y a eu le premier enregistrement d'une balado-diffusion live sur place dans leurs installations qui sont prévues à cet effet-là, devant un public qui était nombreux avec la participation de l'équipe de Geek Collectif.
Yes, en fait. Shout-out à Geek Collectif.
Shout-out à Geek Collectif. Donc, depuis son ouverture, le bar il a d'ailleurs déjà fait les manchettes des nombreuses revues hipsters du quartier, comme Montréal Blog et Nightlife.
C'est hipster, ça, je vais te croire. Je
pas
Montréal.
Je ne connais pas tout.
Ouais. Puis même,
je suis trop en région.
Faites-moi confiance, je suis un expert.
puis même, t'as quand même un foulard.
Quand même.
Moi, si c'est pas dans le journal de l'EPA, l'Association des producteurs agricoles, je ne connais pas.
Mais ça
shout
aussi
out à l'EPA.
Ah oui, j'imagine.
Mais... t'as coupé, je pense pas. Ok, vas-y.
Ça suffit. Mais il y a même quelques publications moins connues qui ont aussi profité de l'occasion pour publier leurs propres articles sur l'endroit. C'est le cas notamment du Petit Journal de Montréal. J'ai malheureusement parcouru en vain l'article en quête de commentaires savoureux d'un certain Denis, mais qui cette fois ont malheureusement brillé par leur absence.
C'est les meilleurs commentaires d'un certain Denis, ceux qui sont pas là.
De quand tu l'avais appelé l'autre tantôt, là?
Juste Alain. Juste Alain. Tout d'un mot, juste Alain.
Mais pour venir à Arcade Montréal, en toute honnêteté, je dois avouer avoir cultivé un certain scepticisme face à la longévité de l'initiative. En fait, les soirées arcade dans le local du quartier Hochelaga, c'était un beau succès chaque jeudi, mais j'avais quelques réservations quant à la participation continue des habitués, alors que le barcade allait ouvrir ses portes presque à chaque jour de la semaine. Eh bien, c'est avec plaisir que je me vois prouvé dans l'erreur et que la clientèle semble plutôt s'être agrandie. Et que tous s'entendent pour dire que l'expérience boisson et jeu rétro semble être un franc succès. Un succès peut-être dû à la présence des jolies serveuses qui travaillent derrière le bar, me direz-vous? Mais je crois plutôt que le succès de l'entreprise émane de la communauté elle-même. Bien qu'il ne s'agisse pas du tout là, du premier établissement à joindre l'expérience bar aux intérêts geeks, Arcade Montréal possède un petit je ne sais quoi qui lui permet de se propulser à l'avant-scène et d'offrir une belle visibilité à une communauté passionnée et accueillante. C'est avec ce concept-là de communauté en tête que j'ai choisi de faire quelques recherches cette semaine puis de porter ma réflexion sur la valeur des différentes communautés en ligne. Évidemment, mon premier arrêt a été, sans surprise, Reddit.
Ouf.
Ouais,
c'est ça. Fait que là, vous allez me dire, bon, Jeff, t'es toujours sur Reddit. Putain, effectivement.
Faites du off-road, là. Allez chercher la communauté sur Reddit.
Mais je suis habituellement le type d'usager qu'on appelle dans le jargon du site un lurker. Donc, c'est quelqu'un qui va s'abonner aux différents groupes et lire les différents articles, opinions, photos de chat, photos de chat, mais qui ne va pas participer ou s'impliquer activement dans les sections de commentaires.
OK.
J'ai déjà vu le monde de même, c'était pas sur Reddit, puis ils ont été arrêtés par la police.
Reddit, c'est un endroit qui est rempli de communautés totalement diverses, qu'on cherche à partager notre passion sur la réalité virtuelle, notre passion du scrapbooking, du cinéma, ou simplement chercher des gens qui, comme vous, apprécient éjaculer sur des figurines de super-héros. Chacun y trouve son compte.
C'est quoi le nom du subreddit de...
Common figurines, ou tout ça.
Donc, tu le sais pas. Tu le sais pas.
Je me rappelle pas. Mais cette semaine, il y a un sous-reddit en particulier qui a attiré mon attention. Ça s'agit du site qui s'appelle Food Pantry. C'est une communauté qui est construite autour de l'idée de connecter directement, puis de manière anonyme si on le souhaite, les gens dans le besoin et les mieux nantis qui habitent à proximité. Donc, les gens vont déposer sur la page leur requête de nourriture pour différentes raisons, que ce soit des...
Excusez-moi, oui, c'est slash R slash coming on figurines coming avec on deux figurines. M. C'est ça. Voilà.
Non, mais tu sais, de l'information importante, là. Il est en train de parler de quelque chose de vraiment mieux. Pour vrai.
Je suis désolé, ça m'est juste apparu d'en face.
Non, mais rigueur.
Je donne une pénalité, là, parce que pour une fois, qu'il parlait quelque chose d'intelligent.
Cabotinage slash rigueur, c'est weird d'avoir les deux en même temps.
Donc, pour revenir à Food Pantry, la communauté là, qui sert à relier les gens pauvres et les gens riches, les gens vont déposer sur la page leur requête de nourriture pour différentes raisons. Que ce soit des difficultés financières passagères ou des complications d'ordre médical, la majorité des demandes sont des appels à l'aide qui sont particulièrement touchants et personnels, puis ça inclut habituellement un lien vers un wishlist sur Amazon ou vers un compte PayPal. Évidemment, les usagers sont tenus de fournir leur code postal pour savoir où ils habitent, pour pouvoir les regrouper par région, puis les modérateurs de la page font une vigie très très serrée pour éviter l'abus ou la fraude, évidemment.
Bref, mais maintien de leur communauté.
Exactement. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que ça marche. La page est remplie de messages de remerciements puis de messages de gratitude, que ce soit un homme forcé à rester alité ou une jeune femme qui arrive tout juste à éviter de se faire évincer de son logement. Les usagers du site, souvent des purs inconnus, ils leur permettent d'améliorer leur sort pour quelques jours, le temps de se relever d'une situation difficile. J'ai trouvé un message particulièrement poignant de la part d'une mère qui remerciait l'étranger qui leur avait permis à elle et ses enfants d'avoir un véritable souper de famille avec un vrai repas complet sans pour une fois avoir à rationner pour la soirée. Donc, on voit qu'il y a un beau souci de la communauté de partager. Je suis aussi tombé sur une autre petite anecdote qui était particulièrement intéressante. Il y a un redditeur, donc un usager du site, qui est tombé en panne d'essence loin de chez lui, donc dans un autre état, après avoir perdu son portefeuille. Donc, il s'est tourné vers Reddit. Il a laissé un appel à l'aide sur le site. Puis, quelques minutes plus tard, il y a un autre éditeur qui habitait à proximité qui est venu lui porter main forte pour lui permettre de rentrer chez lui.
Ça fait du bien. Là. Ça fait du bien parce que souvent, Reddit en particulier est connu pour être...
C'est un peu de tout. C'est un peu de tout.
Mais généralement, c'est pas une des meilleures communautés du web. Là,
ben, oui, puis non. Moi, le feeling que j'ai puis les histoires que je vois souvent, parce que je suis quand même moyennement actif sur Reddit, c'est que oui, au message individuel, la communauté est très, très cynique, mais toujours, toujours porter main forte. Le monde est toujours disponible pour aider.
Solidarité.
Sur tous les
subreddits. Je suis d'accord.
C'est énorme.
Mais ce que je te dis, moi, c'est que l'impression que ça donne au premier regard, puis ce qu'on entend souvent comme un peu partout, c'est que c'est les pires communautés, c'est du niaisage. Mais je dis pas que c'est pas vrai, mais le premier coup d'œil est pas ce côté-là. Puis moi, je trouve ça le fun, je le découvre. Je suis pas autant sur Reddit que vous autres, mais ça, je trouve ça vraiment génial.
Mais... Même Reddit, c'est super populaire, c'est super achalandé, mais ça représente juste la pointe de l'iceberg. On retrouve des communautés qui sont tissées super serrées partout sur Internet. On a juste à penser aux communautés qui sont construites autour des jeux en ligne comme World of Warcraft ou EVE Online, qui se rassemblent annuellement IRL, en personne, dans le cadre des différents cons partout au travers le monde. C'est certain que naviguer l'univers des communautés en ligne, ça vient avec son lot de risques. On doit éviter de nourrir les trolls, on doit changer notre système métrique puis tout mesurer en banane. puis chaque communauté développe avec son temps son propre jargon puis sa propre étiquette.
Ça c'est juste Reddit les bananes.
Quand même. Mais la beauté d'Internet, c'est que, puis c'est pas la première fois que j'en parle, c'est la possibilité de se rassembler, peu importe la distance. Donc les grands mouvements de manifestation à Montréal s'organisent à travers une communauté sur Facebook. Des événements comme le Comic-Con, ça respire la culture du web, ça repousse les limites des forums puis des groupes de discussion permettant aux gens de partager leurs passions dans la vraie vie.
Que ta passion soit de faire éclater un melon d'oie, coup d'élastique sur Facebook en direct.
Ou de t'habiller en furries.
C'est clair qu'il y a des subreddits pour tout ça.
Mais Reddit, c'est la règle 24 de l'Internet, all the way.
Everywhere. Mais même le projet d'Arcade Montréal a vu le jour après que les amateurs de jeux rétro ils ont partagé sur Twitter le fameux tweet qui était adressé au maire Coderre, en fait. Mm-hmm. Donc, le pouvoir de la communauté est venu...
Je serais curieux de voir combien de retweets il y a eu de ce tweet-là.
C'est intéressant de le demander.
Retweet plus les articles la presse qui partaient de ce tweet-là.
Évidemment, on aurait parfois préféré se passer de certaines des communautés web, comme les différents groupes de support du Parti libéral, par exemple.
ou le Gamergate, même.
Ou le Gamergate. Puis c'est parfois facile de regarder avec cynisme les frasques de certains groupes en ligne ou les nombreux gifs de mignons sur Facebook.
Ça se bloque bien facilement.
mais où certains ils voient un système dangereux et anarchique, ben moi, je vois plutôt un bel altruisme puis une belle démonstration du vivre ensemble.
Comme je disais plus tôt, hein, mon temps de gaming cette semaine, dans les dernières semaines, en fait, a pas mal été concentré sur mes classiques. Là. J'ai joué à WoW, j'ai joué à Hearthstone. Donc, j'ai aussi beaucoup joué sur ma nouvelle Wii U dont je vous parlais tantôt. On comprend que j'allais quand même pas parler sur le pod de faire un review de Mario Kart. Là.
Ceux que ça intéresse, ils ont probablement joué.
Puis, je pense que faire un segment sur mon 3 minutes et quart de... jeu avec Miitomo, ça aurait été intéressant pour personne. Tout comme Miitomo, qui est intéressant pour personne.
Je l'ai essayé, là. Ça a duré exactement du temps. Ça m'a pris à le créer mon Mii. Il m'a demandé une question, il m'a dit c'est quoi
ce que tu fais pour te.
C'est ce que c'est pour passer le temps. J'ai répondu quelque chose de vraiment stupide. Il l'a accepté. J'ai arrêté.
Attends une minute. T'as arrêté parce que quelque chose a accepté que tu sois épais. Non, pourtant, ça fait 18 épisodes qu'on fait le podcast.
J'ai juste vu le sérieux de la chose, puis c'était suffisant.
Fait que voilà. Hein? Et on a déjà parlé plus de Miitomo que le temps que ça nous a pris pour jouer. Puis jouer, c'est vite dit. Je sais pas trop comment mon cerveau a fait le lien, mais j'ai repensé récemment à une série télé qui aurait été une de mes séries préférées vers la fin de mon adolescence. Pour ceux qui connaissent... Ben oui, je me suis payé au complet l'intro. Undergrads, ou La Clique en français.
Un shout-out à Good Charlotte, je suppose, pour le thème d'Undergrads.
Moyennement, j'en reparle plus tard. Donc, je sais que toi, Mathieu, t'as été un fan aussi.
Oui.
Jeff, je pense que c'est pas quelque chose que t'as comme...
Et être un fan de Underground...
Ça m'a juste pas donné, en fait.
Être un fan d'Aclic, ça veut dire avoir vu tous les épisodes beaucoup trop souvent.
Oui, oui.
Parce qu'ils jouent en reprise, en boucle.
Oui, donc, c'est ça. Bref, pour ceux qui connaissent pas Underground, l'Aclic, donc à l'époque, là, hashtag old men, j'ai découvert cette série-là sur Télétoon en version française. Là. J'écoutais beaucoup plus la télé en français à cette époque-là que maintenant. Puis plus tard, la nostalgie oblige, j'ai redécouvert la série en anglais. Je vais surtout aujourd'hui parler de la série en anglais là, parce que c'est la version que j'ai réécoutée pour en parler efficacement. Là. J'ai beau l'avoir écoutée plein de fois, c'est le fun de se rafraîchir les souvenirs. Puis c'est aussi la version la plus facile à trouver. Par contre, c'est sûr que je vais avoir de la misère à appeler ça autrement que l'Aclic, là, qui était la version, le nom en français, soyez-en avertis. En même temps, c'était le nom qui était supposé être le nom original de la série, puis qui a été changé pour Undergaz à cause d'une question de copyright, là, qu'il y avait un jeu questionnaire qui allait avoir le même nom, bref, pour pas
mais,
avoir de...
Mais ça arrêtait quoi exactement en anglais, dans le fond?
The Click.
Ah, oh, pour vrai, ouais. OK.
Puis là, il y avait un questionnaire qui allait s'appeler Click, là, puis pour être sûr de pas avoir de fuck, ils ont juste changé de nom.
All right.
Mais là, depuis le début de toute la création de tout ça, c'était The Click par l'auteur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la clique est un dessin animé, dans le fond, qui raconte l'histoire de quatre amis du secondaire qui font leur entrée au collège. Les gros stéréotypes sont tous là, c'est certain. Là, on est dans l'humour style Télétoon de la nuit, là, on s'entend. Là, donc, dessin animé qui s'adresse à des grands ados ou des jeunes adultes ou des plus vieux adultes qui restent dans leur terre de jeunes ados. Donc, les stéréotypes sont là, c'est des grosses caricatures. Les quatre personnages principaux, on va parler de Nitz, le dude introverti qui pense que sa vie va changer juste parce qu'il arrive au collège. C'est un peu le personnage principal, si on veut, de la série. Là. C'est le seul qui est là dans tous les épisodes. C'est assez neutre comme personnage, avec pas mal tout le monde, puis n'importe qui peut s'y identifier. Puis je pense qu'au point de vue narratif, c'est peut-être la force de ce personnage-là. Dans son co-chambreur, Carl, qui pogne ridiculement avec les filles sans vraiment rien faire, là. Il saute littéralement sur lui pour... Pour frencher et plus.
Pour faire des choses pour que je ne comprends pas.
Je ne comprends toujours pas.
Oh, ça me rappelle mon secondaire.
What the fuck?
On va confirmer avec Mathieu.
Putain, je t'ai planté devant sa vite depuis l'âge de 14 ans, puis c'était pas aussi...
Cal a une voix et des tics de langage solidement gossants, dont son espèce de... avec la salive. Là.
Mais ça, c'est vraiment une différence, par contre, de la version française et anglaise. La voix de Cal.
La voix est pire en français, elle est encore plus aiguë. Là.
Mais il perd high pitch, parce qu'en anglais, il y a quand même une voix deep, même
deep,
si...
Deep, mais gossante, pareil.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est vrai. Il y a Rocco qui va au collège communautaire là, de la même ville. Là. Ils sont tous dans la même ville, mais à des collèges différents, sauf pour Nitz Pical. Donc, il va au collège communautaire. Le dude, il pense que au sexe, que à l'alcool. Puis son plus grand rêve en arrivant au collège, c'était de rentrer dans une fraternité. Là. Mais je pense que la vision qu'il avait de la fraternité vient comme des émissions qu'il écoutait quand il était jeune, parce que c'est pas ça qui se produit pendant tout dans la réalité. Ça fait que c'est... Voilà. Puis le quatrième, c'est Gimpy. C'est la caricature parfaite. Puis caricature poussée à l'extrême du geek là, qui sort littéralement pratiquement jamais de sa chambre. Même un gag m'en est avec une bassine, tu sais, à vider. Il va au collège de Tuckerson Tech, donc on comprend, là, c'est pas une école de danse.
Non, c'était pas ça, Tuckerson Tech, dans Rent?
Non, je pense pas. Peut-être qu'il y avait un cours de danse, là. Il y a aussi beaucoup de beaux personnages secondaires là, qui sont des caricatures avec encore moins de profondeur, c'est certain. T'as Kimi, là, la rousse sur qui Nitz trip depuis toujours, qui était un an plus vieux que lui au secondaire, puis qui voit juste rien, elle, de ça.
Oh, elle a de l'expérience.
Hein?
Elle a de l'expérience, elle a un an de plus.
Oui.
Cougar.
Astide MILF Hunter, Nitz.
Puis elle a trip sur Mark, qui est un personnage qui est ouvertement gay, mais elle comprend pas pendant toutes les références qu'il dit. C'est que ça, elle est hyper... Là, naïve, si on veut. Puis bon, t'as Jessie, la première nouvelle amie de Nitz au collège, là aussi. Puis bon, un paquet d'autres personnages, là, ils sont tous assez intéressants puis assez colorés. C'est sûr que vite de même, on dirait une version animée de Chambre en Ville ou Ouattatata. Mais en fait.
C'est ça que t'as choisi, là. C'était Chambre en Ville puis Ouattatata.
Ouais.
Félicitations, je suis fier de toi.
Ça fait plaisir. Mais c'est vraiment plus une comédie légère là, qui touche juste tous les bons sujets pour réussir à atteindre son public cible. Puis, c'est quelque chose qu'ils réussissent extrêmement bien, là. Tu sais, dans le fond, ils traitent de sujets qui sont réellement vécus par du monde qui vont sortir de leur secondaire pour s'en au cégep, au collège, à l'université. Tu sais, l'arrivée dans une nouvelle école, la recherche de ta nouvelle identité, là, avec des gros guillemets, parce que tu changes d'école, tu penses que tu vas te réinventer. La fille, l'amour, la recherche de tout ça. Les nouvelles rencontres, les nouveaux amis, les vieux amis de secondaire. L'alcool, la pression sociale, le sexe, etc. Là, tout est là. en même temps, c'est pas comme si c'était une émission là, d'affaires publiques là, où est-ce qu'on réfléchit en profondeur sur ces sujets-là. C'est surtout des sujets qui vont créer le lien avec le spectateur. Parce que je pense que le public cible, c'était vraiment les jeunes adultes, principalement mâles, là, du groupe d'âge qui rentre au cégep. Là.
On a tous les trois 31 ans. Là, on, donc, à ce moment-là, on était au cégep. Là,
2001, la série. Là, 2001, c'est, on était au cégep.
C'était en plein nous autres.
C'était en plein nous autres. Ouais. Le plaisir, dans le fond, vient beaucoup... quand même, de l'humour un peu épais puis un peu jeune de l'émission. J'ai écouté là, pour préparer le pod, bon, je pensais en écouter un ou deux, je me suis rendu quand même à 5 épisodes en quand même peu de temps. Question d'avoir des exemples là, quand même concrets, en voici quelques-uns, tu sais, un des gags un peu épais là, qui donne le ton, mettons, à profondeur de l'humour. Gimpy se fait pogner, si on veut, là, tout nu dans sa chambre par la surveillante qui tente de trouver qui est G-Prime, qui est qui fait des pranks, là, qui fait des coups sur le campus, puis elle essaie de le trouver, elle rentre dans sa chambre, il est là, assis tout nu sur sa chaise. Ça donne ça. And you have a problem with my sweaty manhood?
Un membre viril en sueur, voilà. Toujours un bon véhicule humoristique.
Ah, désolé en passant, s'il y a des gens qui sont pas trop bilingues, il y a quand même une couple d'extraits. Même épisode encore, là, Nitz, lui, de son côté, c'était l'épisode sur les traditions. Tu sais, chaque épisode a une thématique reliée un peu à la vie au collège. Là. Nitz, lui, a participé à la tradition de l'Exposed Expo. Donc, c'est une course nue sur le campus. Puis, il parle de son expérience, justement, là-dedans, où il demande ce qu'il en a pensé. So, glad you did it. Well, it didn't last long, and it wasn't exactly fun. But I guess it's better to be humiliated sometimes than never try anything. You know, that's exactly my attitude towards sex. Tu sais, il laisse même pas les sous-entendus. Là. Ça, là, c'est la joke qu'on voulait faire.
C'est ça. T'entends la phrase, t'es comme... Puis là, faut qu'il spell it out.
Vraiment.
You know, c'est le premier degré.
Ah, tout à fait. Il y a un épisode où est-ce que les gars s'entraînent pour un gros death match de Quake. Puis ça nous donne cette phrase-là. If you survive basic training, you will be digital weapons of death. Ministers of pixelated mayhem. Megabytes of mutilation. Your joystick... As I was saying, your joystick. Is there something funny about your joystick, Private Rocco? Your joystick must be harnessed as an instrument of digital devastation. You must master your joystick as a fisherman masters bait.
On a exactement la même réaction. Là. Non, imaginez-vous, là, pour il y a quelques années de cela, vous avez 18 ans devant votre écran, puis il y a des gags de joystick. Là, t'es crampé. Puis dans la télé, Rocco, il est autant crampé que toi. Puis à la fin, on entend le bang, il tombe en bas de sa chaise. Là,
mais le fait qu'on réagisse pareil à l'âge qu'on a aujourd'hui, ça en dit long sur notre état
mental. C'est un mix de ah, oh, Chris, c'est cheap. Puis là, tu ris, t'es comme non, mais ça arrête-tu d'être cheap. Là, tu ris de toi qui trouve ça drôle puis qui trouve ça cheap. Exactement pareil, finalement, comme quand on avait 20 ans. Puis on a vu ce gag-là.
Même épisode encore, le Rocco se rend compte, parce qu'ils sont rendus dans le jeu, que quand tu tires avec un gun, t'as plus de balles, ben tu te ramasses avec le coup à main armée, le coup à main nue. Hein, puis dans l'époque de Quake.
Tu sais.
Dans l'époque de Quake, on dirait que Rocco relève le mouvement très répétitif et l'axe particulier du karaté chop assez commun dans ces jeux-là. Oh, sweet ass! It looks like I'm jerking my gherkin. Jerking the gherkin. Ouais, c'est mon nouveau hashtag, jerking my gherkin.
Ça prend un petit.
Puis tu sais, là, c'est qu'audio. Là, si vous prenez la peine de l'écouter, le mouvement est. Ben, vous avez déjà joué à Quake, c'est le même Christine Mouvement. On dirait vraiment que
t'es en train. Il me fait penser au Karate Chop de GoldenEye au 64.
Ah, c'est vrai. Ouais, c'est bon.
Moi, je sais pas, j'entendais juste des guillemets. Je comprends pas.
C'est vrai que c'est pas loin. Après, le garder pour les guillemets,
ça bon. Change tout le sens.
Au niveau du visuel, là, c'est un dessin animé, c'est bien, là, rien de super particulier, c'est un style assez commun pour l'époque. Bref, ça se voit bien, puis ça vieillit assez bien. Là, ils ont fait une belle job de faire une animation qu'ils n'ont pas essayé de faire hyper réaliste, fait que c'est du cartoon qui fait une bonne job sans essayer de faire des affaires qui n'ont pas de sens.
Ouais, c'était quand même mieux que... parce que ça vient, c'était MTV qui produisait ça?
En coopération ouais, avec Télétoon, oui.
Mais bref, ça vieillit mieux que le style de Daria ou des trucs comme ouais. Ça, mettons, qui étaient des mêmes boîtes de production. Mmh.
Ce qui est très drôle, par exemple, c'est au niveau vestimentaire. Là, c'est assez réussi quand tu regardes ça maintenant. Là, on se reporte en 2001, ça donne le feel de l'époque, les différents looks, les différents styles. Écoute, c'est Walk Down Memory Lane, comme on l'appelle. Donc, ça donne un bon feel de l'époque si lointaine de 2001. Quand même.
Back in the day.
On t'a dit tantôt, hashtag old man.
Hashtag old man. Par contre, ce qui est vraiment nice, là, à mon avis, en tout cas, c'est au niveau musical. Vous avez entendu là, l'intro, la chanson thème jouée par Good Charlotte, un band là, pop-punk là, qui était quand même... C'était quand même pas si fréquent que ça à la télé d'avoir ce genre de musique-là qui est une chanson thème pour une émission.
Mais c'était parfaitement, justement, d'actualité comme band pour ce show-là.
Mais justement, j'ai écouté un truc, je vous en reparle un peu tantôt, là, mais j'ai appris que dans le pilote qui a finalement été accepté là, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de... En tout cas, ça a été complexe pour produire le show. Dans le pilote, le troisième, si on veut, qui ont produit. La musique de l'intro, c'était dans le même style, mais par un band vraiment le plus gros. L'intro qu'il avait mis, c'était de Blink-182. Puis ça fitait aussi bien, là. Je veux dire, c'est le style était conservé pas mal en changeant de band. Ça n'a pas fonctionné parce qu'à cette époque-là, Blink était déjà rendu pas mal trop big pour faire ce genre de choses-là, tu sais. Mais MTV a envoyé le pilote à Good Charlotte. Puis ils ont écrit la toune en regardant le pilote. Ben, peut-être pas en le regardant, mais avec le pilote. C'est ce qui fait que les références dans la toune, t'as l'impression que, voyons, on dirait que c'est écrit pour ça. Ben oui, c'est complètement écrit pour ça. Puis dans la version longue de la chanson, il y a encore plus de références, des références à... En tout cas, un paquet d'autres trucs, là. Je m'en allais brûler un de mes punchs, mais un paquet d'autres références qui fait que... Tu sais, tu comprends qu'ils ont écrit la toune en regardant le pilote, puis ils ont dû trouver ça bon. Puis le Ben Good Charlotte est dans un des épisodes aussi, là, comme personnage dans le show. La thématique musicale, elle s'arrête quand même pas là. On peut entendre des tunes de punk, de ska, d'indie rock, de bands canadiens et américains de l'époque. Donc, la liste pourrait être très longue. Puis pas si facile que ça à trouver parce que la majorité des sites officiels sont morts depuis un bon bout de temps. Mais une des tunes que j'ai remarqué le plus, c'est Life of the Party des Planet Smashers, là, qui est un de mes bands ska préférés, un band canadien justement. Fait qu'encore un paquet d'éléments pour accrocher beaucoup le jeune Danny de 17-18 ans là, qui était dans sa phase punk quand même pas mal.
Punk ska.
Punk ska, oui. Mais le ska est resté beaucoup. Un peu plus aussi de punk, là, de skater punk de l'époque. Oui. Voilà.
Ouais.
C'est pas vrai, j'aime encore ça, mais j'ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Là. Le show est assez particulier. Je l'ai écouté un nombre de fois hyper élevé. Puis ce qui est incroyable, c'est le nombre de références fous qu'il y a à la culture populaire. Tu sais, on commence le show, puis on remarque le beau gros iMac G3 bleu de Nitt sur son bureau. Tu sais, le iMac là, en gros plastique deux couleurs là, avec une belle forme là, aérodynamique. Là. Parce que tout le monde sait qu'un ordi doit être aérodynamique.
Quand tu veux le crisser vers la vite.
Puis après ça, bon, mettons, épisode 1, Rocco hallucine le grand gazou des pierres à feu parce qu'il a bu du jus de palourde passé date.
Oui, c'est vrai.
Sinon, dans l'épisode 2, une référence qui, comme d'autres jokes, là, se donne même pas la peine de laisser le sous-entendu là, faire sa job.
IMG Prime!
Aha! IMG Prime!
IMG Prime!
IMG Prime!
I am Spartacus!
Avec le dos déguisé en Romain qui comme vient faire. Si vous n'avez pas compris la joke, lave-la! Gimpy aussi, dans un autre épisode, qui se fait un screensaver. Juste ça, c'est drôle, là. Il y a des screensavers. On utilise pour ça, des screensavers. Qui rend hommage à la grande dame qui est Dana Scully. Puis les références, dans le fond, le fait référence aussi au fait qu'elle aurait ou pas couché avec Mulder. Puis il y a comme un ostinage entre les personnages. Donc, quand même assez drôle là-dessus.
C'est là que tu vois que c'est pas d'actualité, ouais, les gags de X-Files.
Ça dépend.
Ben... Ouais, mais ça a tellement floppé comme retour.
En mais tu sais, même en 2001, c'était pas tant d'actualité que ça non plus.
Ouais, mais ça faisait partie du bagage culturel de
tout le
monde.
Ouais, plus que maintenant. Sinon, dans l'épisode où est-ce qu'ils s'entraînent avec leur joystick là, qu'on a entendu tantôt, il y a aussi une solide, mais solide référence, la scène de toilette dans Full Metal Jacket. Pour ceux qui ont vu le film, là, quand ils vont dans la toilette, puis il y en a un qui est complètement en train de péter un plomb. Et t'as comme un peu la même face dans la face de Carl qui gosse avec son joystick dans la toilette. Là, fait que c'est une belle référence aussi.
C'est un gag visuel, mais faites-nous confiance, il est drôle.
Gimpy qui cite Oncle Ben de Spider-Man directement en donnant un fake ID à Nitz en disant là, With great power comes great responsibility. Puis direct, là, puis en disant que c'est Oncle Ben de Spider-Man. Peut-être pas Oncle Ben, mais Spider-Man direct. Là. Il giggle puis il dit Spider-Man en le disant. Mais j'ai gardé pour le meilleur quand même pour la fin. Quelque chose qu'on adore à Divan Quest. Et non, je ne parle pas du hashtag je suis coq.
Oh. Malgré que.
Je vous drop un petit montage de ce que je voulais dire.
Sir, we've got a fix on the code.
Acknowledged. Red 5, go in.
I'm on it, Red Leader.
Gimpy, I need your help. Chancellor Valorum is plotting against the Republic.
It's a trap! Run away! Run away!
This is a detailed layout of a frat house. Many Bothans died for this information, so let's put it to good use.
There it is, the wretched hive of scum and villainy.
Now we should watch my Malaysian bootleg DVD of The Empire Strikes Back. Balance was restored to the Force, and I got to level 9 on Quake.
Wow.
avec un facsimilé acceptable de la musique de Star Wars.
J'y reviens un peu plus tard, justement.
Mais c'est trop.
C'est une surcharge. Là, on parle de comme en dedans de 3-4 épisodes, puis sans compter que l'épisode 4, c'est une guerre complète entre Star Wars et Star Trek. Là. Gimpy qui est à côté à Tickerson. Gimpy qui est, quand il est arrivé à Tickerson Tech, a comme tassé de genre du leadership de la gang de geeks de ce collège-là, un Trekkie, en le mettant devant un paradoxe de la règle dans Star Trek, là, je lui dis non, là, mais de la Prime Rule.
Prime Directive,
en disant ouais, mais là, c'est parce qu'en leur disant d'appliquer la Prime Directive, vous contrevenez à la Prime Directive qui dit de ne pas s'immiscer dans les affaires. Puis là, il bug, puis il prend le lead, puis. Fait que là, tout le show, c'est le gars de Star Trek qui veut reprendre la place, si on veut, de leader. Puis il y a comme une espèce de guerre entre les deux. C'est là que ça finit en team deathmatch à Quake. Là, mais tout l'épisode, c'est ça. Il y en a un paquet d'autres références. Je vous dirais que... Puis dans le développement du show, à un moment donné, le show a été pitché au Sci-Fi Channel. Puis ils ont intégré un paquet de références en faisant ça. Ils n'ont pas pu vraiment le faire parce qu'il y avait un truc de droit qui revenait à MTV. Mais bref, ils ont gardé cette idée-là là, de très, très geek puis de référence à Star Wars. Il y a une référence au moins à chaque épisode à Star Wars qui est des fois très courte, des fois très longue.
Des fois un épisode complet.
Mais tu me vends. Je pense que je vais écouter en fait.
C'est pas très long à réécouter, justement.
Mais non, il y a 13 épisodes de 22 minutes. Là. Personnellement, moi, c'est un dessin animé, un de mes dessins animés préférés. Là. J'ai eu un plaisir fou à l'écouter, souvent à l'époque. Maintenant, un gros fan à me retaper une couple d'épisodes. C'est sûr que je me finis là, le reste de la saison. En tout cas, il me reste 7 épisodes. Ça va être pas trop long. Là.
Hashtag se finir le reste de la saison.
Ouais. semblerait par contre que ça soit assez personnel comme opinion, peut-être pas personnel, mais que ce soit pas si répandu. Le show a été assez froidement reçu, autant par les critiques que dans les codes d'écoute. En fait, les critiques, c'était pas qu'ils aimaient pas ça, c'était assez neutre. Puis pour les codes d'écoute, ben en m'informant un peu plus, j'ai compris qu'ils ont mis le show, puis là, checkez, vous allez comprendre, un beau move de MTV. Le show, quand il a commencé, était le dimanche soir, en même temps que les Simpsons.
Bon, ben anyway, le dimanche soir, quand j'étais aux études, là, excusez, là, mais c'est peut-être pas exactement le temps où je passais le plus ces fois devant TV.
Mais
là.
En même temps, imagine, là, même si t'avais passé du temps devant la télé, t'as comme un poste de show-là pas connu, puis t'as l'autre poste Les Simpsons, ça fait mal à un show. Il a même pas fini la première saison sur MTV. Il a fait 6 épisodes, puis ils ont tiré à plug. C'est ça. Par contre, c'était une série qui était co-réalisée là, canadienne-américaine avec Télétoon et tout ça. Ils ont eu beaucoup de subventions. La majorité de l'animation a été faite à Toronto.
Ouais, c'est souvent quelque chose que le monde ne savent pas, là, mais Télétoon au Canada, c'était pas juste francophone comme on a eu.
Non, c'est ça.
Il y avait le penchant anglophone, ce qui fait qu'il y a beaucoup de shows qui ont été produits justement avec des subventions canadiennes, etc. pour le contenu.
Puis ça a pas mal mieux marché sur Télétoon. En fait, ils ont fait une meilleure job aussi de promotion, ce que MTV a comme pas vraiment fait. Là. Donc, ils ont beaucoup. Donc, le show a très très bien marché, a été en reprise pendant genre 28 ans, là, même si ça fait pas si longtemps qu'il. C'est fou, là, c'est tout le temps en reprise. Je pense que ça doit faire 2 ans là, qu'ils ont enlevé.
Mais c'est ça, je me rappelle là, que le running gag c'était ah, oh, t'as jamais écouté la clique, check ça. Puis au bout de 2 semaines, les épisodes jouaient à tous les soirs, c'est ça. À 7h. Fait que 2 semaines, t'as vu tous les épisodes, puis ça jouait continuellement à 10-11 heures le soir à Télétoon.
Mais en fait, si tu googles Undergrad, t'as encore la page de Télétoon at night, même s'il n'est plus vraiment à l'horaire, là, fait qu'il y a des liens qui ne fonctionnent pas, des images qui ne loadent pas, mais la page est comme encore là et ça fait que c'est récent. Là, s'il avait refait le site depuis, elle aurait comme pris le bord. Donc, Télétoon, puis bon, l'autre compagnie, là, j'ai oublié les noms, mais il y a une compagnie qui était reliée aussi à ça pour le financement, ont quand même beaucoup essayé de faire revivre le show sans grand succès. Possiblement à cause de MTV là, qui détient la moitié des droits sur le show, donc ça devient plus compliqué. Il y a eu beaucoup d'essais de retour qui ont été faits dans les dernières années pour soit une série ou au moins un film là, qui pourrait clore un peu les histoires qui ont été pas terminées là, parce que bon, je me rappelle plus exactement de ce que c'était, mais la première saison finit sur un cliffhanger. Là. Donc, tu sais, il reste des choses qui sont pas clos. Puis
ouais, mais c'était des cliffhangers, genre, c'est sûr. Ah, oh, il va te sortir avec ouais, un tel nom.
Mais, tu sais, ça laisse comme des ficelles non attachées. Puis, tu sais, en fait, autant pour les fans que pour l'auteur, ça pourrait être fun de continuer ça.
Ouais, mais suite à ton segment, c'est sûr que ça va être un argument suffisant pour les rendre.
On part un Kickstarter. Ou pas.
Hein? C'est, ouais. S'il y a des fans, dans le fond, là, les plus récentes, ben, il y a des informations assez récentes qui parlent justement de ça, des efforts de ramener le projet minimalement pour un film qui bon, fera un wrap-up de tout ça. Il y en a parlé en août 2013. Pete Williams, le créateur, Josh Kagan puis Andy Ringgold. qui étaient les deux autres auteurs là, qui ont travaillé là-dessus, étaient sur le podcast My So-Called 8-Bit Life, puis ils ont parlé d'un script pour un film, One Love, à ce moment-là. Encore plus récemment, puis là, c'est très récent, août 2015, Pete William, le créateur, a parlé sur un panel qui était intitulé « Autopsy of an Animated Series » à Toronto, dans un genre de convention, là, j'ai pas trop compris, là, mais on lien avec l'animation puis tout ça. C'est tout petit la salle, mais on voyait que c'était en lien avec ça. Parlait beaucoup là, de bon, la création du show puis tout ça, puis à la fin, il parle un peu de l'avenir du spectacle, parce qu'ils se sont rendus compte en 2012, justement, ils ne savaient pas vraiment, lui et les deux autres, qu'au Canada, ça avait fonctionné. Là. Ils savaient que ça jouait à Télétoon, ils savaient que ça passait à la télé, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un gros fanbase qui s'était développé. Puis en 2012, il a été invité à une exposition à Calgary, puis son panel était plein. Là. Il ne restait plus une place dans la salle de libre. Puis les organisateurs de la convention ont demandé ben, ça vous tente-tu d'en faire un autre demain, parce qu'il y a tellement de monde qui voulait le voir, qui n'ont pas pu rentrer dans la salle. Puis là, ils ont comme compris à quel point. Il y avait un fanbase, surtout peut-être au Canada.
C'est un peu comme le slapshot de l'animation.
Bref, en 2015, il parlait un peu de tout ça, du développement. Puis il dit que dernièrement, ils ont réussi à trouver à qui il faudrait qu'il parle à MTV, parce qu'il y a eu plein de changements, plein de refontes. Là, on s'entend qu'MTV, le M, je ne sais plus à quoi ça fait référence. Là. Mais si on se fie à Portlandia, le show est maintenant le poste est maintenant géré par des préadolescents. Pour ceux qui ont écouté Portlandia, une blague nichée. Donc, ils ont réussi à trouver à qui parler à MTV, ils ont rentré en discussion. Puis dans le fond, ça dépend surtout de ce que MTV pourrait demander pour céder leurs droits. Puis là, moi, je comprends pas.
C'est le classique des. Tu sais, c'est un peu comme Tim Schafer n'a pas eu de difficulté après que Disney a racheté Lucasfilm. À avoir les droits pour faire des versions HD pour Day of the Tentacle, pour Grim Fandango, etc. Parce qu'ils font rien avec ces droits-là.
C'est ça. C'est là que je comprends pas. Ils ont tiré à plug. Là. MTV, ils n'ont même pas passé la saison complète. Ils ont peut-être fini par le faire en reprise à un moment donné à 2h du matin. Là.
Pourquoi ils gardent?
Les DVD sont même plus en vente.
Exact.
Ils font pas une maudite scène avec ce show-là. Là. Ben, ils doivent faire de l'argent un peu par ce qui se passe à Télétoon, mais encore là, ils doivent avoir des ententes que ce qui se passe au Canada leur revient pas en grosse partie. Puis ils veulent pas, ou en tout cas, ils sont réticents à céder des droits. Bon, peut-être que les nouveaux administrateurs vont être plus à l'aise. Ils vont peut-être leur faire une entente qui est potable, mais tout dépendant de cette entente-là, ben là, ils pourraient avoir quelque chose qui pourrait se développer.
Mais sais-tu, moi, je suggère un tweet à Denis Coderre.
Il va être juste comme « What the fuck?
» La clique. Ils ont pensé que c'est la clique du plateau.
Enfin, fuck non. Ils ont un TV show, eux autres. Fuck ça.
Fait que c'est un peu à voir, mais je vous dirais qu'en août 2015, la porte n'était pas fermée. T'sais, quand il a présenté ça aux gens, il dit « I've got good news, not great news, but good news ». Donc, la porte n'est pas fermée, ils ont réussi à rentrer en communication, c'est peut-être quelque chose qui pourrait se faire. Puis il dit « C'est sûr que si on réussit à avoir les droits, on part un Kickstarter ». Puis je me suis dit « Moi, je kickstart jamais des affaires qui sont hyper risquées, mais ça... » Oui. c'est une autre intéressante là, par rapport à MTV, justement. Ben, tu voulais-tu? Non. Il y avait, à l'époque du développement de la série, un petit peu avant 2001, entre MTV et Lucasfilm, une grande collaboration. Parce que MTV faisait beaucoup de promos pour le premier fan-film de Star Wars, là, Phantom Menace.
Moi, j'ai déjà entendu parler.
C'est pour ça qu'il y a autant de références à Star Wars dans les épisodes et qu'ils n'ont pas eu de problème à les faire. Par contre, la collaboration était supposée être encore plus forte parce que les créateurs s'étaient fait dire au début qu'ils pourraient même utiliser les sound effects ou la musique de Star Wars. Ce qui est finalement pas arrivé. Fait qu'ils ont comme amené des émissions avec de la musique de Star Wars, des sound effects, puis là, ils se sont fait dire « Mais non, vous ne pouvez pas utiliser ça. » D'où le bout que tantôt que tu relevais le l'imitation acceptable de Chewie puis l'imitation acceptable de musique. Là.
Le « good enough
ouais. ». Le « good enough ». Même chose au niveau du screensaver de Scooby dont je parlais tantôt. Ça se posait être un screensaver de Leia. Puis la dispute au sujet de « Est-ce que Leia est une vierge ou pas? » Puis Lucasfilm a dit « Non, ça, vous pouvez pas faire ça. »
C'est un sujet que tu peux toucher.
Puis il disait, ben, dans le fond, s'il n'y avait pas eu la collaboration avec Lucasfilm, on n'aurait peut-être pas pu faire autant de gags, mais ceux-là, je pense qu'on aurait pu le faire parce qu'on n'était pas en collaboration, justement. Bref, depuis août 2015, c'est sûr que c'est récent, pas vraiment d'infos. J'imagine que, bon, ça reste un truc que les créateurs voudraient bien faire. On attend les nouvelles de MTV. Bon, c'est peut-être bien que Netflix aussi pourrait reprendre ça. Ils ont quand même fait la saison 4 d'Arrested Development, pourrait bien reprendre aussi.
Qu'est-ce qu'ils ont ramené Full House, là?
Fuller House. Donc, moi, si on me demandait plutôt de donner une note à la série, je donnerais 4 pattes d'un vieux divan puis une version bootleg malaisienne d'Empire Strikes Back.
Good show!
Donc, un petit peu de housekeeping avant d'embarquer dans la finale du show. Le concours Mew, comme ça a été dit cette semaine sur Facebook. Là,
housekeeping, c'est comme une référence au lave-vaisselle des commentaires du Journal de Montréal?
Non.
Excusez, on ne fait pas ça, nous autres.
Sors. Il n'y a pas de fan ici, on ne peut pas faire ça.
Encore de la controverse. On est tout le temps dans un scandale.
C'est une satire.
Ah, ben là, ça passe.
Le tutoriel.
Donc, comme ça dit cette semaine sur Facebook.
Veux-tu rejouer le Good Show maintenant?
Le email de la personne qui avait été tirée la semaine passée ne fonctionnait pas, puis la personne ne nous avait pas laissé de nom, donc on a décidé de refaire un deuxième tirage. Puis c'est Simon Dumont-Laviolette qui a été tiré une seconde fois. Toutes nos félicitations à Simon, qui est officiellement et en public. Merci aussi pour tous tes bons commentaires. Donc, pour trouver nos derniers épisodes de divanquest.com, pour du feedback ou du hate mail, ou je sais plus trop ce que Jeff voulait là, au divanquest@gmail.com, ah, des offres pour le piano. Donc, sur Twitter, au twitter.com/divanquest, sur Facebook, au facebook.com/divanquest, par courriel, divanquest@gmail.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzoweb.com. C'est aussi dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com. Et allez sur iTunes, cliquez les petites étoiles, laissez-nous un commentaire. Vous pouvez faire cette semaine comme Lord Levesque qui dit « Les gars ». Donc il dit « Les gars, c'est sérieusement, vous avez vraiment compris ce qu'est un bon podcast. Je ne vous avais jamais écouté avant hier et je crois que c'est le 5e épisode que j'écoute. Bon podcast sur les jeux vidéo, drôle, pertinent, nécessaire. Un immense merci à Lord Levesque.
Ben, merci beaucoup.
Un gros merci.
Et on se revoit dans 2 semaines.